Hey, bon midi, la gang. Bienvenue à l'émission On en jase sur les ondes de Boulevard 102.1. Émission qui t'informe des sujets les plus importants, surtout ici en capitale nationale, mais également politique, que ce soit provincial, fédéral ou même international, surtout avec la guerre en Iran. D'ailleurs, on va parler avec notre spécialiste Éric Ouellet aux alentours de 12h40. Une base canadienne au Koweït qui s'est fait attaquer. Ça avait été gardé secret. On va demander à M. Ouellet, qui, rappelons-le, est professeur titulaire au département d'études de la défense au Collège des forces armées canadiennes et au Collège militaire royal du Canada, pourquoi ça a été gardé secret comme ça. Évidemment, on va vous tenir au courant parce qu'on le sait, la tempête est terminée, mais il y a encore un réseau routier qui peut être problématique. Il y a encore des pannes d'électricité. Il y a évidemment des fermetures d'institutions. Donc, on va vous tenir informés de tout cela durant l'émission. 418-971-1021. Pour nous rejoindre par texto, allez-y, textez-nous. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. 418-780-1021, c'est le numéro de téléphone. Jamais vous êtes sur la route et qu'il se passe de quoi de vraiment important et que vous pouvez nous appeler en toute sécurité, faites-le sans problème. BLVD.fm, c'est notre web radio. C'est aussi les meilleurs moments de notre émission qui s'y retrouvent à chaque jour après l'émission. BLVD 102.1, c'est notre application sur App Store, Google Play Store. Venez nous voir sur twitch.tv/BLVD/FM et abonnez-vous à notre page YouTube parce que les meilleurs moments de Boulevard, les podcasts qu'on fait, notamment l'excellente série Entrepreneur avec Joanie Fortin, notre collègue à Weekend Radio, s'y retrouve à chaque semaine. Donc, abonnez-vous à notre page YouTube sur BLVD. Pascal CV, comment ça va?
Ça va très bien. Ça va très bien. J'espère que vous autres aussi. Un peu plus complexe se rendre au travail aujourd'hui parce que que l'avait prévu Bruno Marchand, bon, les grosses artères étaient pas mal déneigées, mais les petites rues résidentielles, les trottoirs, on restait pris.
Exactement. Et à la météo, justement, aujourd'hui, c'est moins 3. Il va rester quelques averses de neige, poudrerie par endroit. C'est des vents du sud-ouest de 30 km/h, donc vraiment moins pire qu'hier. Température stable à près de moins 3. Refroidissement éolien, ça va jusqu'à moins 10. Ce soir, cette nuit, ça sera quelques averses de neige cessant en soirée. Et demain, vendredi, c'est moins 1, généralement ensoleillé. La neige va revenir samedi avec un moins 1. C'est 1 degré prévu pour dimanche au thermomètre. Pascal, informe-nous par rapport justement à cette tempête-là. Est-ce qu'il y a des problèmes sur la circulation, l'état des pannes électriques? Bref, fais-nous un bon bilan.
J'ai rien à dire pour les réseaux routiers. Tout roule, là. Il y avait une petite affaire, mais ça s'est résorbé dans les dernières minutes. Sinon, il y avait point de presse de François Legault. Vraiment, là, dernière heure, on vient de terminer. Et on a annoncé que la grande majorité des pannes seraient réglées d'ici 23 heures. Il s'est donné le droit de le dire, le premier ministre, que ça sera réglé d'ici 23 heures parce qu'il en a même jasé avec la présidente d'Hydro-Québec. Alors, c'était un consensus commun. Consensus commun, bon, c'est le cas de le dire. Mais les pannes seront réglées d'ici 23 heures. Au Québec, c'est environ 145 ménages qui ont toujours une privatisation et d'électricité à la mi-journée. Donc là, c'est le dernier bilan. Je m'excuse, j'ai rafraîchi mon ordi en même temps que je vous le dis parce que en l'espace d'une minute, ça bouge en ce moment. Vois-tu, dans la région, le secteur de Chaudière-Appalaches, c'est celui qui est encore le plus touché. Ça n'a pas beaucoup bougé depuis ce matin. On est toujours à plus de 9000 foyers privés d'électricité. Okay. Mais pour la capitale nationale, je parle et ça diminue. C'est pour ça que je me suis un peu enfargée. Je voulais vous dire qu'on était à 1000 quelques. Ça s'améliore grandement. On est rendu à un petit peu plus de 700 adresses sans courant. Et c'est majoritairement dans Jacques-Cartier et l'ouest de la ville. Sauf que ça va très vite. Je pense que Québec, la capitale nationale, devrait s'en sauver dans les prochaines heures, là, honnêtement.
Ce au qui niveau est des très, très, très positif.
Oui. Bruno Marchand veut porter plainte. Donc, le maire de Québec accuse le courtier immobilier de Via Capital, Simon Laberge, d'être allé trop loin en utilisant les termes « malade mental » qui étaient dirigés vers lui dans une vidéo sur TikTok. Le Journal de Québec affirme que la vidéo d'opinion qui portait sur le projet de tramway a été retiré sur les réseaux sociaux. Sinon, le chauffeur qui a décimé une famille de Beauport, rappelle-toi, en septembre 2021, il vient de faire une demande de sortie. C'est Éric Légaré, il y a 48 ans aujourd'hui. Il demandait ce matin, lors d'une audience auprès de la Commission des libérations conditionnelles du Canada, des permissions de sortie pour rapports familiaux et perfectionnement personnel. Le verdict devrait être rendu d'ici 15 jours. Je vous rappelle que Légaré a écopé de 16 ans de prison pour avoir tué 4 membres d'une famille en état d'ébriété. Il roulait à 130 km/h dans une zone de 70. L'Iran va continuer de bloquer le détroit d'Ormuz. Donc, le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, prenait la parole publiquement pour la première fois ce matin. Il affirme vouloir venger les victimes de cette guerre-là. Il dit qu'il est prêt à livrer une guerre d'usure et détruire l'économie mondiale. Le prix du baril de pétrole a repassé la barre des 100 $ américains aujourd'hui, malgré une intervention des grandes puissances sur le marché. Aujourd'hui, Donald Trump, président des États-Unis, justifie à nouveau son offensive. Il juge beaucoup plus important à ses yeux d'empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire que de se soucier du prix du pétrole.
Dans la circulation, tu l'as dit, ça va très bien. Le déneigement s'est bien fait également, mais c'est le temps d'aller rejoindre Émilie Laure, qui est porte-parole au ministère des Transports et de la Mobilité durable, pour en savoir plus sur notre réseau routier. Émilie, merci d'être présente pour nous aujourd'hui à On en jase.
Ça me fait plaisir.
Émilie, premièrement, je veux vous féliciter parce que d'habitude, on chiale tout le temps. Puis il y a du monde qui chiale que vous avez été trop prévoyant, mais bravo d'avoir été trop prévoyant parce que pour de vrai, on fait la circulation à Boulevard régulièrement depuis 2 jours et il n'y a à peu près pas eu d'accident ou de sortie de route. Fait que bravo à toute l'équipe pour le travail que vous avez fait.
Bien, je vais faire le message, mais l'appel a vraiment été entendu. On l'a dit là depuis, je vous dirais, la semaine dernière, on avait commencé à regarder ça un peu. Il y avait un système de pressionnaire important qui s'en venait. On a fait plusieurs appels à la population de rester à la maison si c'était possible. Donc, ça a été possible pour nous de dégager le réseau rapidement hier, toute la journée, et puis éviter congestion et accidents, bien évidemment. Alors, je pense que c'est un travail d'équipe, cette affaire-là.
Est-ce que la stratégie que certains ont employée, soit de ne pas gratter immédiatement, là, comme le maire Bruno Marchand nous l'expliquait, nous, pour la ville de Québec, question qu'il n'y a pas une patinoire qui s'installe, c'est des choses qui sont vues aussi de votre côté. Est-ce que c'est des choses qu'on souhaite parfaire puis instaurer pour la suite des prochaines tempêtes?
Bien, la ville puis nous, on n'a pas le même système routier, si on veut. La ville, eux, ont pas d'autoroute. Nous, c'est des autoroutes. Alors, on fait de l'épandage de sel le plus rapidement possible pour faire fondre la neige. C'est des autoroutes là sur lesquelles les gens circulent en haut de 90 km/h ou 100 km/h. Fait que la stratégie, elle peut pas être appliquée de la même façon que la ville de Québec. Nous, c'est vraiment là, le dégagement le plus possible. Donc, on sillonne notre réseau avec les véhicules de déneigement tout au long de la journée, tout au long des précipitations, là, jusqu'à temps que ce soit terminé pour dégager ça le plus rapidement possible. C'est vraiment la stratégie qu'on utilise, là, étant donné la particularité, si on veut, de notre réseau.
Il y a des gens qui étaient critiques hier, qui disaient, ben voyons, le verglas a commencé beaucoup plus tard, il n'y a personne sur les autoroutes, ça pourrait bien rouler. Vous, vous étiez proactif. Est-ce que vous pensez qu'il y a une façon d'être trop prudent, comme hier on peut avoir perçu, peut-être dans les communications?
Ben en fait, il y a 2 choses là-dedans, là. On ne sait pas ce qu'on s'est évité en faisant ça. Fait qu'on aurait pu pas parler, rien faire, puis avoir des accidents toute la journée, puis sans dire pourquoi vous avez pas dit aux gens de rester à la maison. Alors, on s'est peut-être évité ça. Puis on a suivi les prévisions météorologiques tout au long de la fin de semaine et de la semaine. Puis c'était particulier hier, là, je vous dirais, là, j'étais au centre de service, là, puis on regardait les prévisions de minute en minute. Puis à toutes les fois qu'il y avait un rafraîchissement des prévisions, la quantité diminuait. Puis le temps venait, ça c'était un peu plus loin dans la journée. Mais quand je suis arrivée là à 7h le matin, on avait quand même encore notre 15 cm de neige, on avait encore notre 10 mm de grésil, on avait notre 30 mm de verglas. Mais rendu à 10h, ben là, on n'avait plus rien sur les radars avant midi, puis ça avait tout diminué ces quantités-là. Fait qu'au fur et à mesure que la journée avançait, on se rendait compte que le système allait être beaucoup moins imposant. Puis le printemps, le problème qu'on a, c'est les températures oscillent souvent là, de quelques degrés, ce qui fait varier vraiment beaucoup ce qui tombe. Alors, nos méthodes d'intervention sont pas les mêmes, évidemment, si on a de la neige ou si on a du verglas. Mais hier, je peux vous dire qu'on a été relativement chanceux. En fait, on s'est évité beaucoup de problèmes, je pense.
Émilie, à l'heure actuelle sur le réseau routier, est-ce qu'il reste des routes problématiques?
Non, on n'a pas de route problématique. Ce qui n'est pas dégagé complètement le sera au courant des prochaines heures. Les précipitations ont arrêté. On s'attend à avoir un petit peu de neige résiduelle au courant de la journée. Il faut surveiller les vents. Alors, les routes transversales là, de nord au sud, il faut vraiment les surveiller, eux, à cause de la vitesse des vents là, qui provient d'ouest majoritairement. Bien évidemment, nos équipes sont encore sur le terrain là, pour dégager tout ça. Et puis, on est prudent là, à l'approche d'un véhicule de déneigement. Ils ont des angles morts très importants. Et puis, on prend notre mal en patience. Parce qu'évidemment, des fois, on a des déneigeuses en mode biseaux, là, si on veut, là, qui se succèdent l'une après l'autre pour bien dégager le réseau routier. Alors, à ce moment-là, on est patient là, quand on est.
Et dernière question pour toi, Émilie Laure, porte-parole ministère des Transports et de la Mobilité durable. Est-ce qu'on va devoir faire des activités de déglaçage du pont Pierre-Laporte en raison du verglas?
Non, on a mis ça de côté. En fait, hier, puis avant-hier, on avait un peu cette optique-là là, en fonction de ce qu'on avait comme prévision de verglas. On avait quand même un 30 mm, là, ce qui était important. On s'en est sorti là, dès 6 heures ce matin. On a fait des constatations. On n'a pas besoin de faire du déglaçage du pont Laporte. Alors, c'est vraiment là, ça. C'est
une excellente nouvelle.
Oui, ça aurait été une grosse journée. On appréhendait vraiment beaucoup.
Vraiment.
Faut vraiment fermer de jour. On ferme une voie, deux voies ou encore on fait des patrouilles de retenue pour fermer une direction au complet. On essaie de ne pas être en heure de pointe, mais des fois, c'est comme pas évident de le faire. Puis, c'est vraiment pour assurer la sécurité des usagers de la route, mais ça a vraiment beaucoup d'impact sur la circulation. Puis, on est bien content de ne pas être obligé de le faire. En tout cas, pour 2026, on souhaite que ça va être pas mal terminé. Ça.
Yes. Émilie Laure, félicite toute l'équipe pour moi. Merci, tu es toujours disponible pour nous en tant que porte-parole au ministère des Transports et de la Mobilité durable. Je te souhaite une belle fin de gestion de tempête et une excellente journée.
Merci.
Ça fait plaisir. Émilie Laure, porte-parole pour le ministère des Transports. On saute exactement dans le caucus.
Le caucus. L'Everest 2, disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Caucus normalement avec notre ami Antonine Iacarini des
T'allais
jeudis.
Dire caucus Iacarini, hein?
Non, je me suis enfourché dans le normalement. Et là, pour aujourd'hui, bien, on fait affaire avec Victor Henriquez en raison de l'absence d'Antonine. Victor qui prend toujours le relais d'Antonine et on apprécie énormément. Monsieur Henriquez, comment allez-vous?
Bonjour, Jeff. Bonjour, Pascal. Je suis content d'être la normale Henriquez aujourd'hui.
Et voilà! La normale Henriquez. La normale Henriquez, je te fais entendre Jennifer Griffin, une journaliste pour Fox News qui a bâché sur Donald Trump. C'est rare, ça arrive, si on s'entend. Fox News, Donald Trump, le mouvement MAGA. C'est tout collé ensemble, ça. C'est imbriqué. Mais là, whoop, avec la guerre en Iran... Le scellant colle moins, on dirait. On écoute Jennifer Griffin. C'est concernant l'école qui a été détruite et les 160 jeunes filles de 7 à 13 ans qui sont décédées dans cette destruction. Elle va parler des missiles Tomahawk qui appartiennent aux Américains. On traduit par la suite et Victor, tu vas pouvoir commenter.
Rising to me because basically the U.S. has Tomahawks. Tomahawks have to be fired from either submarines or from warships. The Brits and the Australians have Tomahawks, but they're not part of this conflict. And then you also have the Japanese who are in a testing phase. So it seems highly unlikely that it would be anyone's Tomahawk other than a U.S. Tomahawk that hit that school. And I think the president knows that. He just knows that this is a... certainly a mistake, a big mistake, and it's being investigated, but he's trying to sort of muddy the waters by talking about the Tomahawks.
Donc, en gros, ce que Jennifer Griffin dit, c'est que l'école a été abattue par un missile Tomahawk. Les missiles Tomahawk sont tirés à partir de navires de guerre. Il y a trois pays qui en ont à l'heure actuelle. Les États-Unis, l'Australie et l'Angleterre. L'Australie et l'Angleterre ne participent pas à l'attaque. Il y a les Japonais qui en testent aussi, ne participent pas à l'attaque. Donc, si c'est un missile Tomahawk qui a détruit l'école... Bien, ça veut dire que c'est un missile lancé par les Américains. Mais malheureusement, le président Trump continue à dire « Ah, ça va prendre des investigations. Ah, ça va prendre des enquêtes. Ah, ça se pourrait que ce soit les Iraniens qui aient abattu leur propre école pour faire croire qu'on était des méchants, comme on entendait un peu là, des Israéliens avec le Hamas quand on détruisait des hôpitaux. » Trump est en train de complètement l'échapper avec cette guerre-là, Victor.
Trump est en train de l'échapper avec cette guerre-là. En même temps, Trump l'échappe depuis un moment avec la vérité alternative. Hein. Et ça, là-dessus, vous le savez, on en a déjà parlé. La philosophie de Donald Trump, c'est qu'on ne perd jamais, on ne reconnaît jamais une erreur, on ne reconnaît jamais une faute. Au contraire, on la minimise et on passe à autre chose. Dans ce cas-ci, ce qu'on a, c'est de la propagande. Et c'est ça le danger de la propagande. C'est que justement, il est basé sur des perceptions. On tente à manipuler l'opinion publique. Dans le cas de Donald Trump, on cherche à gagner du temps dans ce cas-ci. C'est absolument horrible ce qui est arrivé dans cette école. Faut le savoir, faut en reparler aussi le plus souvent possible parce que dans une guerre, il y a des erreurs. Ici, on parle littéralement d'une erreur en termes de données. Et ce sera intéressant d'entendre à l'avenir aussi parce que aux États-Unis, il y a toute cette question des données, justement, qui maintenant sont traitées par l'intelligence artificielle, une grosse guerre avec Anthropic là-dessus. On peut se poser la question, est-ce que justement ce traitement par l'intelligence artificielle pourrait pas amener plus d'erreurs comme celle-là? C'est un bâtiment qui a déjà été utilisé par les gardiens de la Révolution, ne l'était plus. Et on a littéralement assassiné plus de 160 jeunes filles. C'est une catastrophe, c'est horrible. Et attendez-vous pas à ce que le président américain assume son erreur, ce n'est pas son style.
Mais je pense que c'est la chose la plus problématique et dangereuse en ce moment. Puis je le nomme comme ça, dangereuse. Le fait d'aller jouer sur l'information, sur les faits, sur les choses qu'il sait très bien. Et Donald Trump fait deux choses qui sont importantes dans cette guerre-là et qui sont différentes de ce qu'on a vu auparavant, selon moi. Puis je veux vous entendre là-dessus, les gars. Un, c'est l'impulsivité. L'impulsivité qu'on connaît de Donald Trump, mêlée à son narcissisme, c'est complexe et c'est difficile. Il n'y a pas eu beaucoup d'analyse. On en aurait demandé plus. Et ça, c'est plusieurs pays qui le disent aussi. Et l'autre chose, c'est justement son incapacité à reconnaître quand il fait mal et qui est souvent liée à son impulsivité. C'est comment est-ce qu'on trace la ligne, Victor, entre agir rapidement puis prendre un pas de recul dans ce genre de conflits internationaux?
Ben, il y a plusieurs choses. Hein. T'amènes des éléments hyper importants, Pascal, parce que l'impulsivité fait qu'en ce moment, on a l'impression que Donald Trump est parti sur une guerre dont il ne contrôle pas la fin. Et ça nous explique un peu aussi pourquoi Fox News se prononce comme il le fait. Parce qu'il faut se rappeler une chose, Donald Trump a été élu par des républicains. Et chez les républicains, on avait depuis plusieurs années cette critique envers les guerres inutiles, notamment depuis l'intervention en Afghanistan. Les Américains considéraient que ce n'était pas leur rôle d'aller sauver la planète au complet, puis ils étaient tannés de payer pour ça. Et Donald Trump a dépensé 11 milliards de dollars dans les 6 premiers jours de cette guerre, nous a dit que ce serait très rapide, nous a dit que c'est des conséquences concrètes. On voit le prix de l'essence qui explose, on voit les pays qui sont obligés d'ouvrir leurs réserves. Et on se rend compte aussi qu'il n'y a personne qui peut nous dire à ce moment-ci quand est-ce que ça va finir, parce que je ne sais pas si vous avez la même impression que moi, mais moi, quand j'écoutais Donald Trump et Israël, je me disais, ils ont fait l'analyse de la capacité de défense et de réplique, surtout de l'Iran, puis il n'y en a pas beaucoup. Et là, quand on regarde le temps passé, on se dit que l'Iran est pas mal plus résilient qu'on le pensait. Un contrôle sur le détroit d'Hormuz qui amène à une hausse importante du prix de l'essence, un contrôle économique aussi sur cette région-là, et en plus, à des armes et des drones pour répliquer. Donc, à un moment donné, on se dit, est-ce que vraiment l'intelligence était là pour attaquer? Et rappelons-nous que cette guerre-là est entièrement provoquée par Israël et les États-Unis. Là. Il n'y avait pas une situation où est-ce qu'on s'attendait sur le bord de la frontière pour être sur le point de se taper dessus.
Capacité
on a décidé d'aller attaquer là-bas.
Capacité technologique très forte aussi au niveau de l'Iran. Bon, Israël est encore meilleur. Puis, ils ont parlé d'une guerre d'usure. On ajoute à ça dans le débat. Ils ont mentionné ce matin... Le nouveau guide suprême iranien, pour la première fois, prenait la parole publiquement. Il a mentionné, nous sommes prêts à aller dans une guerre d'usure. Les gars, c'est gros.
C'est une guerre d'usure, c'est une guerre qui est très longue et c'est une guerre qui va faire très mal. Et ça nous ramène à cette question économique parce que il y a une chose, par exemple, moi, qui peut me rassurer. Si on veut chercher des points positifs, clairement, le guide suprême, le nouveau guide suprême, qui est le fils de l'ancien guide, a identifié la question économique comme étant ce dernier point d'ancrage sur lequel on espère en Iran faire reculer les États-Unis, Israël et le monde occidental. On sait qu'on contrôle avec le détroit d'Hormuz le passage de près de 20 % de la production pétrolière mondiale. Donc, c'est sûr que si on n'a pas accès à 20 % du pétrole, la demande va continuer à être très forte dans nos pays. À un moment donné, il va y avoir un enjeu d'offre et de demande et ça va faire mal sur les prix. Donc, on cherche du côté iranien à faire mal avec l'économie plutôt que d'essayer de faire mal avec des armes. Et ça peut amener à des réflexions complètement différentes. Là, on a vu du côté américain, Donald Trump aujourd'hui, dire que c'est plus important de désarmer l'Iran que le prix du pétrole. Donc, tout ça nous amène à dire, OK, la guerre va devenir économique. Quand la guerre devient économique, ça veut aussi dire que du côté iranien, on est peut-être en train aussi d'arriver au bout de cette résistance plus forte qu'on l'imaginait, parce qu'on cherche à identifier un endroit très précis sur lequel on veut prendre le contrôle plutôt que de continuer à attaquer tout le monde, ce qui, de toute façon, était à un moment donné voué à l'échec pour l'Iran.
Un texto très intéressant qui vient de rentrer, Victor, et je veux t'entendre là-dessus. C'est un auditeur, une auditrice qui mentionne « Pendant ce temps, la Chine en profite pour acheter du pétrole à l'Iran malgré la dite fermeture du détroit d'Hormuz. De plus, les ventes de véhicules électriques chinois explosent. Bref, le vainqueur, c'est la Chine. »
Le vainqueur, ça peut être la Chine. Le vainqueur, c'est les compagnies pétrolières. Le vainqueur, c'est ceux qui vendent du pétrole. Vous savez, il y a deux choses. La première, dans une guerre, la première victime, c'est toujours la vérité. Il y a toujours des vainqueurs économiques au bout de la guerre. C'est là aussi où est-ce qu'on peut se poser la question sur les véritables motivations. Parce que les motivations ne sont pas les mêmes pour Donald Trump et pour Israël. Quand vous voyez Israël attaquer le Liban, c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup, mais c'est un sujet extrêmement important. Le Liban, membre de la francophonie, un pays très proche de la France, du Québec, le Liban est très attaqué par Israël. Les Israéliens veulent le contrôle du secteur. C'est ce qu'ils font en ce moment. Ils attaquent Beyrouth, ils attaquent l'Iran, ils ont pris Gaza, alors que les Américains veulent le contrôle du pétrole.
Mm-hmm. Victor, je veux t'entendre là-dessus par rapport au Liban. Tiens, parce que dans Marceau le matin, on a reçu une Libanaise qui habite maintenant à Montréal, mais qui était là-bas lorsque les frappes ont commencé, puis qui était coincée là-bas. Et elle nous disait, au Liban, nous, on ne croit pas à ça, le fait qu'ils combattent le Hezbollah. On pense que c'est plus pour s'approprier du territoire parce que le gouvernement libanais met énormément d'efforts pour désarmer le Hezbollah. De quel côté tu te situes?
J'ai tendance à croire qu'on est un peu trop proche des zones habitées, puis on frappe dans des zones un peu trop densément peuplées pour me dire que c'est une intervention ciblée sur le Hezbollah, très honnêtement.
Mm-hmm, c'est vrai.
Puis rappelez-vous des attaques au Padjet. Vous savez, il y a une couple d'années, on avait eu cette attaque de façon très brillante orchestrée par le Mossad israélien qui avait attaqué le Hezbollah en faisant exploser des Padjet à distance. Oui. Alors, on avait à ce moment-là intervenu directement sur le Hezbollah. Mais quand je vois Israël bombarder Beyrouth de la façon qu'il le fait, quand on bombarde une population, c'est parce qu'on veut lui faire peur. Et ici, Israël, ce qu'ils font, c'est de tenter de faire peur aux Libanais pour justement prendre du contrôle sur le territoire. Et ce n'est pas nécessairement le contrôle du terrain. Hein. On ne veut pas nécessairement agrandir les frontières d'Israël. Mais ce qu'on veut, c'est s'assurer que dans ces régions-là, l'opposition à Israël diminue parce que les gens développent la peur.
Victor, on s'en vient plus près de chez nous, c'est-à-dire au Canada. Mark Carney fait son 17e voyage depuis qu'il est premier ministre. Il va aller en Norvège et à Londres. Et pendant ça, Pierre Poilievre va s'en aller aux États-Unis. On écoute pourquoi Pierre Poilievre se rend enfin aux États-Unis.
Cette semaine, je vais aller aux États-Unis pour défendre le Canada et nos travailleurs. Première étape, le Michigan. Je vais rencontrer des dirigeants de l'industrie automobile et des élus de l'État pour défendre notre industrie automobile et faire la promotion d'un commerce sans tarifs entre le Canada et les États-Unis. Ensuite, je vais aller au Texas pour promouvoir l'énergie canadienne et nos ressources naturelles. Nos ressources peuvent rendre nos deux pays plus forts, plus sécuritaires et plus prospères. Je vais aller aussi à New York pour prononcer un grand discours sur le partenariat historique entre le Canada et les États-Unis.
J'adore ce genre de vidéo avec toujours la petite musique dramatique derrière, mais si on enlève le format, Victor, sur le fond, on est pas mal certain qu'au 13 avril, le PLC devient majoritaire. Ça laisse 3 ans à Pierre Poilievre pour démontrer qu'il peut être un premier ministre. Et là, il continue sur sa stratégie d'aller voir les gens à l'extérieur du Canada.
Et j'avais le goût de crier « enfin » quand j'ai entendu Pierre Poilievre.
Moi aussi, là, je m'étais gardé une gêne, mais vas-y.
Je pense que le vidéo aurait dû commencer par « enfin, j'ai compris que je ne viendrai pas premier ministre en donnant des claques à la période de questions, mais qu'il fallait que je me présente comme quelqu'un capable de représenter le Canada ailleurs que à l'enceinte du Parlement. » Et il est bien servi par un premier ministre qui, disons-le, est très voyageur et qui le justifie très bien dans le contexte actuel. Les Canadiens aiment voir leur premier ministre rebâtir des ponts avec le restant de la planète quand on voit que notre voisin immédiat n'a pas vraiment le goût de nous voir. Pierre Poilievre prend un élément intéressant, s'en va aux États-Unis. Et je trouve ça bien parce qu'au bout de la ligne, c'est les Canadiens qui sont gagnants. Hein? Parce qu'en ce moment, on a 2 leaders politiques qui se promènent dans le monde en disant que le Canada est open for business et qui se promènent en disant que c'est bien de faire affaire avec le Canada. Et vous savez ce que ça amène? C'est une notion de stabilité. C'est que les partenaires économiques disent « Ah, OK, au Canada, que ce soit Mark Carney ou Pierre Poilievre, on va pouvoir faire des affaires. » Et ça, c'est un grand avantage dans le monde d'aujourd'hui. Parce que trop souvent, les gouvernements mènent un peu la business sur des bases politiques. Au Canada, on a la chance d'avoir 2 gouvernements qui voient les relations internationales un peu de la même façon, de potentiels gouvernements. Et bien entendu, Pierre Poilievre sait aussi qu'il lui reste maintenant 3 ans. Parce que tu l'as dit, Mark Carney est à 2 comtés d'être majoritaire avec une élection partielle qui va lui donner 2 comtés sûrs. Peut-être un 3e avec Terrebonne et peut-être même un 4e lorsqu'Alexandre Boulris va quitter Ottawa, ce qui est une question de temps. Alors, Il doit maintenant composer avec le fait que la prochaine élection aura vraisemblablement lieu en 2029 et que d'ici là, il doit aussi s'assurer que ses députés n'ont pas le goût de mettre dehors de son parti. La meilleure façon de faire, c'est d'aller se promener à l'extérieur un peu pour laisser les députés à Ottawa tranquilles parce qu'ils n'aiment pas trop la pression de leur chef autour d'eux trop souvent.
Mais ça, je pense que c'est important de l'aborder aussi aujourd'hui parce que là, on est en 2026, ça c'est en 2029. Entre-temps, ça a été complexe, on a perdu une élection. On a Victor, au sein même des troupes de Pierre Poilievre, ça commence tranquillement à se jaser. Est-ce qu'on va vouloir évincer M. Poilievre du parti?
Les députés pourraient être tentés de le faire. Puis on a, par exemple, ce courant des conservateurs plus modérés où est-ce qu'on a vu quelques défections. Moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a encore des discussions avec des transfuges potentiels. On me dit même qu'il y aurait un ou deux transfuges qui seraient annoncés dans les prochaines semaines. Donc, c'est très concret. Puis les gens qui me disent ça sont les mêmes qui nous disaient « on pense atteindre une majorité avec les transfuges », ce qui est en train d'arriver. Donc, tout ça pour dire que oui, il y a une pression au niveau des élus. Il y a une chose, par exemple. Pierre Poilievre, en termes de membership conservateur, auprès de ceux qui prennent leur carte de membre, est extrêmement fort. C'est ça que le vote de confiance nous a dit. Un vote de confiance très élevé, justement, qui est venu un peu consolider cette position-là. Alors, du côté des députés, il y a un couteau à double tranchant. Pour les députés de l'Ontario et du Québec, c'est peut-être un peu moins risqué, mais pour les députés de l'Ouest, il y a un risque important à s'opposer à Pierre Poilievre parce qu'il a une popularité acquise. Alors, moi, je m'attends à ce que, justement, en faisant cette ouverture vers l'étranger, en étant aussi plus apte, peut-être, et ça, c'est l'étape que je m'attends à voir dans les prochains mois, plus apte à donner de la place aux membres de son équipe, je pense que Pierre Poilievre est capable d'acheter la paix d'une certaine façon et de se rendre à la prochaine élection. Mais ça va passer par une mise en valeur de l'équipe. Il y a deux choses qui ont coûté l'élection à Pierre Poilievre. Son abnégation à ne pas prendre en considération le changement de contexte avec les États-Unis et le fait d'avoir été incapable de nous présenter une équipe gouvernementale prête à gouverner le Canada. Il semble intervenir sur le premier. Est-ce qu'il changera le deuxième? Ça, ça reste à voir.
Il y a 3 ans pour le faire, chose certaine. On est dans le caucus du lundi au jeudi à compter de midi jusqu'à 12h30, normalement avec Antonine Iaccarini. Aujourd'hui, c'est Victor Henriquez en remplacement. Victor, en terminant, je t'aime, moi, d'entendre le monde chialer qu'on se prépare trop une tempête. Hey, mais on l'a bien fait, ça a bien été. Pourquoi qu'on chiale? On se serait mal préparé, on chialerait que les gouvernements puis les villes font dur. Là, on s'est bien préparé, ça a bien été. Puis on chiale qu'on s'est trop préparé. Écoute, on est des maudits chialés au Québec.
Ça, je pense que c'est pas une surprise pour personne. Hein. On aime ça. On aime ça chialer au Québec. Puis c'est correct, on a le droit de chialer. C'est le pouvoir que nous donne le fait de payer nos impôts puis nos taxes, puis on en paye pas mal. Alors
ouais,
on
c'est vrai qu'on
avec.
En paye trop.
On chienne à la hauteur de ce qu'on paye, je pense. Mais il y a une chose, par exemple, puis bravo à toutes ces organisations. J'écoutais la porte-parole du MTQ. Le MTQ était prêt. Les villes étaient prêtes. Le monde, oui, c'est vrai que finalement, il a tombé un peu moins. Il faisait un petit peu plus chaud. Puis dans le cas des puits verglaçants, je disais ce matin que 0,5 degrés peut vraiment changer les choses, hein, entre du grésil, de la pluie verglaçante ou de la pluie. Donc, je pense que quelque part, on a été chanceux. Mais moi, ce que ça me dit, c'est ben les gouvernements et les organisations en général ont compris qu'on est d'abord qu'on doit dire aux gens ce qu'on est en train de faire pour garder la confiance et qu'on est mieux d'être trop précautionneux que pas assez. Puis pour le gars en gestion de crise que je suis, c'est un cadeau du ciel parce que moi, j'arrête pas de dire à mes clients « prépare-toi au pire, le bonheur, c'est facile à gérer ». Maintenant, je vais être obligé de leur dire que ça n'empêche pas les gens de chialer, mais au moins, ça fait qu'ils oublient plus vite parce qu'il y a une chose qui est claire. On se rappelle pas mal plus quand les gouvernements ne font pas ce qu'il faut que quand ils ont été trop précautionneux.
En effet, tu as entièrement raison. Victor Henriquez, c'est toujours un bonheur de te parler. Merci d'avoir frappé une fois de plus en relève à Antonine Iaccarini. La semaine prochaine, tu frapperas en relève à Antonine lundi et jeudi. Donc, au plaisir de te reparler lundi. Je te souhaite un excellent long week-end.
À bientôt, prenez soin de vous autres.
Salut Victor, merci beaucoup. Merci. Victor Henriquez, que vous entendez régulièrement à l'émission On en jase.
C'est tantôt quand on parlait du conflit au Moyen-Orient, Donald Trump qui essaie de justifier un peu toutes ses actions là-dedans. Il y a eu, et j'avais posé la question la semaine passée, en onde, t'étais absent, t'étais en congé, à Valérie Beaudoin, qui est analyste politique là, du côté de la politique américaine. Puis j'avais posé la question, est-ce que Israël a joué de Donald Trump? Puis on n'est pas capable de répondre encore à ce
jour. Pour le moment, en effet.
Parce que, oui, il y a une possibilité. Puis Trump étant Trump, s'il voyait un avantage quelconque, bien, il aurait sauté les deux pieds là-dedans. Est-ce que les États-Unis ont eu une envie de participer à ce conflit-là à 100 % ou finalement, on regarde ça puis on a envie de reculer, mais puisqu'on a mis un pied devant, en étant Donald Trump et avec tout le parcours politique qu'on lui connaît, ben on ne pourra jamais dire que finalement, c'était pas une bonne décision.
Oui, ou est-ce que c'était aussi parce que Donald Trump, dans son premier mandat, avait eu des mailles à partir avec l'Iran aussi. Ça faisait partie de sa stratégie d'anéantir le plus possible ce régime-là. Ça se peut aussi. Bref, on va sûrement le savoir dans quelques années en regardant les retombées de ce conflit-là. Parlant du conflit, justement, dans un instant, Boulevard 101, l'émission On en jase, c'est Éric Ouellet, notre spécialiste en conflit militaire, qui sera là. Une base canadienne qui a été attaquée au Koweït, c'est resté... sous le radar, on n'en a pas parlé. C'est un journaliste de la presse qui a sorti ça ce matin. Donc, information très intéressante à discuter avec Éric Ouellet. On aura également le président de l'Union des municipalités du Québec qui sera avec nous. Il est en tournée à Québec et à Chaudière-Appalaches aujourd'hui et demain. Donc, monsieur, justement, Guillaume Tremblay, président de l'UMQ, sera avec nous. Je veux entre autres parler avec lui de cette lettre ouverte-là de Sylvain Junod sur la multiplication des taxes sur les services de base. Sylvain Junod complètement en compte. Il dit, ça n'a pas d'allure qu'on charge le monde au poids de leurs poubelles. Les jeunes familles, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'on en pense du côté de la présidence de l'UMQ? Parce qu'on s'en va-tu vers ça? Il y a beaucoup plusieurs gens qui craignent à Québec qu'on s'en aille vers ça. Taxer les vidanges au poids.
Puis... surtout les commerçants.
Exactement.
J'ai parlé à certains restaurateurs. C'est l'année passée que j'avais un dossier là-dessus sur le poids des poubelles. Là. Il y en a qui disent, t'sais, nous, on a notre poubelle, mais on est sur des rues passantes. On a ci, on a ça. Il y a des choses qu'on doit respecter. Puis souvent, il y a du poids poubelle qui ne nous appartient pas.
Exactement.
Dans nos conteneurs. Il faudrait payer plus pour ça.
C'est ça. Donc, c'est ce qu'on va parler avec Guillaume Tremblay. Et on va faire un tour complet avec toi, Pascal, de l'actualité. Donc, dans un instant, c'est ce qui vous attend à l'émission On en jase sur Boulevard 102.1.
Fortin et Pascal CV et leurs collaborateurs te racontent l'actualité.
Boulevard 102.1.
Midi 37, exactement. Saviez-vous que le patron lapin est de retour pour Pâques, offrant à vos employés une reconnaissance chocolatée en vous procurant des patrons lapins du patron Rocamadour, une campagne qui existe depuis 1978. Hey, j'en ai déjà vendu quand j'étais adolescent. Chaque année, la vente des patrons lapins est un moment attendu, du chocolat, des prêts à gagner, mais surtout une façon simple de redonner, car tous les fonds récoltés permettent de soutenir les activités des patrons en entier. On vous invite donc à visiter lepatronlapin.com pour passer votre commande et offrir le bonheur. Plus d'offres de sport, plus d'offres de loisirs, plus d'offres en entraide dans les différents patros de votre quartier. Il y a même des prêts à gagner d'une valeur de 5 000. Ben oui, ma blonde a gagné 1 000 $ au IGA l'année passée.
C'est un peu méconnu malgré tout. Fait que c'est beaucoup de chance de gagner.
Ben oui, exactement. Donc, croquer le patron lapin, encourager les patrons, surtout le patron Rocamadour qui a été victime là, avant la période des fêtes d'un incendie. Alors, patronlapin.com.
On achète déjà du chocolat pour Pâques. Moi, je l'achète toujours au patron lapin depuis que c'est revenu. Ça me rappelle mes souvenirs d'enfance. Puis, tu donnes du chocolat d'abord, pourquoi pas le faire pour une bonne cause, puis peut-être même gagner comme ta blonde.
Exactement. Donc, donner généreusement à la grande famille des patrons. À la météo, averse de neige, moins 3 degrés. Poudrerie par endroit, vent du sud-ouest à 30 km/h. C'est une température stable à moins 3 degrés. Pour cette nuit, ce soir et cette nuit, ça sera quelques averses de neige cessant en milieu de soirée. Demain, c'est généralement ensoleillé à moins 1. Neige intermittente pour samedi à moins 1 et 1 degré pour dimanche. Quel est le résultat présentement au niveau des pannes d'électricité, Pascal, dans le Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches?
Oui, bien la grande majorité des pannes devraient être réglées d'ici 23 heures. C'est ce que le premier ministre François Legault a affirmé en point de presse ce matin. Point de presse qui était aussi relié aux informations d'Hydro-Québec. Fait qu'on peut s'y fier. C'est environ 145 000 ménages là, dans la province qui sont toujours privés d'électricité. Sinon, Chaudière-Appalaches, je ne sais pas ce qui se passe dans Chaudière-Appalaches, mais on est passé de 9 000 pannes à 11 000. On est revenu au constat de ce matin. Alors, on voit que ça grouille dans le secteur de Chaudière-Appalaches. C'est vraiment là où c'est le plus touché dans notre grande région. Pour la capitale nationale, la situation s'améliore là, petit à petit. On est rendu à quelques plus de 600 adresses en courant, majoritairement dans la Jacques-Cartier et l'ouest de la ville.
En actualité, il y a un chauffeur qui demande d'être libéré, et ça de mémoire, alors qu'il a tué une famille et qu'il en était à sa 7e balloune.
C'est un chauffeur qui a décimé une famille de Beauport en septembre 2021. Là, il demande une permission de sortie sans escorte. C'est Éric Légaré, il a 48 ans aujourd'hui, et ce matin, il demandait, pendant une audience auprès de la Commission des libérations conditionnelles du Canada, une permission de sortie pour rapports familiaux et perfectionnement personnel. Demande-moi pas plus d'infos. Jeff, on n'en a pas. Ce qu'on sait, c'est que le verdict devrait être rendu d'ici 15 jours. Je vous rappelle effectivement, Légaré a écopé de 16 ans de prison pour avoir tué 4 membres d'une famille en état d'ébriété et roulé à 130 km/h sur le boulevard Dufresne-Montmorency dans une zone de 70. Il est rentré de plein fouet dans ces véhicules-là qui attendaient pour tourner à la lumière à gauche. James Fletcher, 68 ans, sa fille Shelley Fletcher, le mieux, 44 ans, et les deux petits-enfants, Emma et Jackson, le mieux et Fortin, 10 ans, 14 ans, ont été tués. On se rappelle, je pense que ça nous a tous saisis, puis on va s'en souvenir longtemps. Bruno Marchand veut porter plainte. Le maire de Québec accuse le courtier immobilier de Via Capital, Simon Laberge, d'être allé trop loin en utilisant les termes « malade mental » dirigés vers lui dans une vidéo sur TikTok. Le Journal de Québec affirme que la vidéo d'opinion porte sur le projet de tramway, mais elle était retirée des réseaux sociaux. À l'écoute, il n'est pas clair si le courtier dit « en malade mental » ou « à un malade mental ». Le sous-titrage affiché dit « à un malade mental ». On n'a pas répondu du côté du courtier immobilier, mais c'est à suivre. Les salaires des hauts dirigeants des grandes banques canadiennes sont en hausse l'an dernier. Leur rémunération a bondi de plusieurs millions de dollars. La volatilité des marchés a permis aux institutions financières d'encaisser de forts profits. Fuite de données aussi chez Under Armour. Les renseignements de plusieurs millions de personnes, soit des clients, sont compromis. C'est un tiers non autorisé qui a obtenu certaines informations personnelles de clients. La fuite de l'automne dernier touche des Québécois. On ignore combien sur les 72 millions d'adresses courriels touché. L'Iran continue de bloquer le détroit d'Ormuz. Le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, prenait la parole publiquement pour la première fois ce matin et a affirmé vouloir venger les victimes de cette guerre-là, qui est prêt à livrer une guerre d'usure pour détruire l'économie mondiale. Jeff, ce matin, je lisais et j'ai apporté l'information ici là, pour nos ondes qu'il y a certaines des bombes qui sont utilisées contre l'Iran qui coûtent plus d'un demi-million chacune. Puis les missiles qui sont intercepteurs, ça peut coûter 3 millions de dollars par tir. Le chiffre, ça a été dévoilé par le Pentagone, par exemple. Il inclut pas les coûts associés à la préparation de l'attaque. Donc, le montant final, là, en réalité, ça peut être beaucoup plus élevé.
13 milliards de dollars que Victor Henriquez nous racontait tout à l'heure dans le caucus. Ça sera disponible sur le blvd.fm. Et c'est pas terminé. Et les Américains ont voté pour Donald Trump en pensant qu'il ne ferait pas d'intervention armée du genre.
Le prix du baril du baril de pétrole a repassé la barre des 100 $ américains aujourd'hui, malgré l'intervention de plein de puissances sur le marché. Donald Trump, sans parler président des États-Unis, a justifié à nouveau son offensive et juge que c'est beaucoup plus important à ses yeux d'empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire que de se soucier du prix du pétrole. Ça fait réagir aux États-Unis. Puis toujours dans cette guerre au Moyen-Orient, il y a un camp militaire canadien qui a été touché au Koweït, un camp des forces armées canadiennes, et c'est une attaque de missiles iraniens au début de la guerre au Moyen-Orient qui a produit cette destruction-là. Et on révèle que c'est grâce à une enquête de La Presse qu'on est au courant. Donc, c'est un bunker qui est situé à proximité des installations canadiennes de la base aérienne d'Ali Al-Salem qui a été endommagé lors de cette frappe-là du 1er mars. Mais on n'avait pas d'informations. On vient de l'apprendre.
Et justement, pour en parler avec nous, on a Éric Ouellet, notre spécialiste en conflits militaires et surtout professeur titulaire au département d'études de la défense au Collège des Forces armées canadiennes et au Collège militaire royal du Canada. Éric, merci de participer à On en jase aujourd'hui.
Bonjour, oui, c'est toujours un plaisir de vous parler.
Éric, pourquoi on a caché cette attaque-là sur une base militaire canadienne au Koweït, selon toi?
Il peut y avoir quelques raisons là-dessus. Une, c'est peut-être parce que le gouvernement voulait pas se sentir forcé de s'impliquer dans le conflit. Je doute que ce soit vraiment la raison. L'autre raison, ici je spécule, j'ai pas d'informations précises là-dessus, mais c'est peut-être l'édifice en question qui est utilisé par les forces d'opérations spéciales. Et tout ce qui touche les forces d'opérations spéciales, c'est toujours hautement classifié. Et c'est peut-être une raison qui me semble plus plausible.
OK. Donc, on ne peut pas s'inquiéter d'un contrôle de l'information si c'est contrôlé. C'est des raisons là assez importantes pour pas trop se poser de questions.
Tout à fait. Tout ce qui est classifié selon la loi là, sur les secrets officiels, Le premier ministre lui-même n'a pas le droit d'en parler publiquement, donc à moins que ce soit déclassifié. Et donc, je spécule, là, mais je pense que c'est quelque chose de cet ordre-là, parce qu'il faut se rappeler que les forces spéciales canadiennes continuent d'aider les milices kurdes dans le nord de l'Irak à s'entraîner et aussi améliorer la gouvernance de la région. Et la base au Koweït est un point d'appui important pour supporter cette mission.
Parce qu'à l'heure actuelle, vous comprendrez qu'on se pose un peu de questions sur la validité de l'information, mais aussi la transparence de certaines informations. Quand on voit le président des États-Unis, Donald Trump, en retenir, en peut-être changer, puis surtout réaffirmer que, ah non, ça, c'est peut-être pas nous, c'est peut-être pas si dans l'attaque contre une école iranienne. On veut avoir une transparence encore au Canada sur ce qui se passe.
Oui, mais je pense que le gouvernement a été relativement transparent, là, mais dans le cas d'un édifice précis qui aurait été endommagé soit par une frappe directe, soit par un débris qui est tombé, et que c'est un édifice qui est utilisé pour des opérations classifiées en Irak, je pense que c'est un cas qui est... On peut leur pardonner, si vous voulez. Je peux me permettre l'expression.
Pour rappel, on parle avec Éric Ouellet, notre spécialiste en conflit militaire. Éric, qui dit vrai? Donald Trump qui dit « La guerre va finir bientôt. » L'Iran qui dit « Je suis armé et je suis prêt à me battre jusqu'à la dernière goutte de sang et je suis prêt pour me battre pendant 6 mois. »
Ouais, ben ça c'est la logique de tout conflit militaire. Hein. C'est deux volontés qui s'affrontent et puis ultimement c'est le premier qui va flancher, qui va perdre la face au minimum. Là. Et donc en ce moment on est vraiment dans un conflit qui va continuer pendant un bon bout de temps. Monsieur Trump a pas vraiment de façon de sortir du conflit en sauvant la face. Et les Iraniens, le régime iranien non plus. Donc, les combats vont continuer jusqu'à temps qu'il y ait une porte de sortie quelconque qui soit développée pour que les gens sauvent la face. Peut-être que M. Trump va aller jusqu'au bout. Il veut un changement de régime, mais je pense que les autorités militaires et politiques américaines ont compris que ça sera peut-être pas facile à faire.
Mais comment on peut s'en sortir sans nécessairement briser les égaux, de ces dirigeants-là? Parce que c'est une guerre qui a été qualifiée de possiblement d'usure de la part du nouveau guide suprême iranien aujourd'hui. Il a dit, moi, il n'y a pas de problème. Je continue jusqu'à temps qu'on soit tanné. Au niveau de l'économie mondiale, je peux et je veux la détruire. Ça va être difficile de trouver une solution. Envoyez-vous pour que ça cesse?
Ben, écoutez, le nouveau dirigeant iranien, il fait aussi un peu le gonflage de torse. Là. Ça fait partie de l'expression politique normale. Mais le pays et le régime est lourdement endommagé aussi. Il va peut-être arriver à un point où ils ne veulent plus être endommagés. Et les Américains vont vouloir une porte de sortie. Donc, il va peut-être avoir un début de négociation, une piste diplomatique qui va s'ouvrir. Ça pourrait être quelque chose de l'ordre, écoutez, si vous arrêtez de nous attaquer, vous, les Américains, on va mettre fin complètement à notre programme d'enrichissement nucléaire. Et là, ben, les deux parties trouveraient un terrain d'entente au moins minimal là, pour arrêter les opérations militaires. Mais on n'est pas rendu là encore, ça c'est clair.
En attendant, Éric, quoi s'attendre dans le détroit d'Ormuz? Parce que hier, il y a 3 bateaux, il y a 3 pétroliers qui ont été attaqués, qui ont pris feu. Est-ce qu'il va y avoir encore des attaques de ce type dans les prochains jours?
Oui, je pense qu'il va y en avoir encore parce que, bien entendu, faire monter le prix du pétrole, c'est le moyen principal de l'Iran de combattre les Américains et les Israéliens par des moyens politiques, plus que, disons, des moyens indirects. Mais et les Américains doivent en ce moment faire une recherche très, très active des sites de lancement de missiles antinavires dans la région. Il y a peut-être aussi des mines sous-marines qui ont été installées. Là, il y avait un rapport de CNN, si je me m'abuse, qui disait ça. Donc, ils vont vraiment essayer de préparer le terrain avant de faire une escorte de navires, parce que c'est très dangereux aussi pour les navires américains. Donc, ça va continuer. Peut-être les Américains vont être capables de déployer leur marine parce que la zone est devenue plus sûre en détruisant là, les sites de lancement.
Oui, effectivement, on apprenait hier que pour les militaires américains, on s'était positionné dans le fait de pouvoir détruire ce qui est un peu iranien dans le coin du détroit d'Ormuz pour essayer de faire recirculer les choses, mais du moins que ça soit plus sécuritaire. Mais la situation est quand même critique, là. Il y a des gens qui sont coincés, il y a des cargos qui n'ont rien à voir dans tout ça, qui attendent avant de circuler dans certaines eaux sur le territoire. L'Iran semble pas nécessairement avoir de barrières, peu importe qui. On déstabilise, on tire. Est-ce que la façon de faire la guerre a définitivement changé cette fois-ci?
Ben écoutez, le pétrole, bloquer le pétrole international, c'est vraiment le seul outil que l'Iran a. Donc, ils mettent vraiment l'accent là-dessus. Parce que ça peut créer des pressions autant à l'intérieur des États-Unis que les autres pays du monde mettent des pressions sur l'administration Trump. C'est vraiment leur seule carte forte dans leur jeu. Et pour les pauvres marins là qui sont pris là-dedans, c'est possible qu'il y ait une opération humanitaire soit organisée par les pays du Golfe là pour aller chercher les marins sur ces navires-là et puis laisser les navires ancrés là jusqu'à temps que les choses se calment. En ce moment, là, il y a très, très peu de navires qui osent prendre le détroit d'Ormuz. L'autre question aussi, c'est que, vu que c'est une situation de guerre, habituellement, les compagnies d'assurance maritime n'assurent plus les navires. Donc, si un navire est touché par un missile iranien, la compagnie qui est propriétaire n'aura pas de remboursement. M. Trump avait flotté l'idée qu'il allait assurer, les États-Unis allaient assurer eux-mêmes là, les navires, mais il n'y a pas eu vraiment de mouvement dans cette direction-là.
Éric Ouellet est notre spécialiste en conflits militaires et surtout professeur titulaire au département d'études de la défense au Collège des Forces armées canadiennes et au Collège militaire royal du Canada. Éric, merci beaucoup pour ta participation et on se reparle certainement la semaine prochaine.
Parfait, merci et à la prochaine.
Salut Éric. Éric est un spécialiste qui nous explique toujours bien ce qui se passe en ce temps de guerre en Iran.
À Boulevard 102.1 avec Jeff Fortin et Pascal CV. Jusqu'à 14h, on en jase.
On passe de l'international. On va revenir un petit peu plus les deux pieds dans la capitale nationale, notre belle ville de Québec. Et on va discuter immédiatement avec Guillaume Tremblay, président de l'Union des municipalités du Québec et maire de Mascouche, qui est en visite en capitale nationale aujourd'hui en Chaudière-Appalaches demain. Monsieur Tremblay, merci de participer à l'émission On en jase.
Bien, bonjour à vous deux.
Merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous amène à Québec et à Chaudière-Appalaches? C'est votre tournée parce que vous avez été nouvellement nommé président. Vous faites le tour, j'imagine, des différentes municipalités pour comprendre les défis de chacun.
Bien, d'entrée de jeu, vous avez dit qu'on était dans la belle région de Québec. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Mais vous dire aussi rapidement qu'il y a une réalité comme nouveau président de l'Union des municipalités du Québec. L'objectif, c'est de se promener à travers les régions pour justement comprendre la réalité régionale de chacune d'elles. Parce que quand on rencontre le gouvernement après, les différents paliers de gouvernement, bien, il faut avoir des exemples concrets de ce qui se passe sur le terrain dans chacune des municipalités, dans chacune des régions. Puis c'est un peu pourquoi qu'aujourd'hui, on est à Québec et demain à
Monsieur Tremblay, Capitale-Nationale, il y a un maire qui parle pas comme les autres, c'est Sylvain Junot, celui de Saint-Augustin, de la municipalité de Saint-Augustin-des-Morts. Et j'aimerais vous faire entendre ce qu'il a dit sur nos ondes mardi dans l'émission Marceau le matin. Et par la suite, j'aurai une petite question pour vous.
Les services de base, là, le mot le dit, là, c'est la base. Là. La pyramide de Maslow là, sur les besoins de l'humain, là, ça s'applique à une ville, là. Donc, les vidanges, la récu, le déneigement, l'asphalte, vous comprenez, les infrastructures, les loisirs de base, une bibliothèque, c'est non négociable, c'est collectif, ça doit pas. On peut pas demander à des gens là, qui ont des bébés à maison et qui jettent leur couche de payer plus parce que les vidanges, ils en ont plus. Voyons, c'est n'importe quoi.
Pour Guillaume Tremblay, président de l'Union des municipalités du Québec, c'est oui ou c'est non la taxe en surplus selon le poids de nos vidanges?
Bien, moi, je vous dirais, sans rentrer dans les détails, dans les chicanes de votre milieu, moi, ce que j'ai le goût de vous dire, il y a une réalité, par exemple, là, qui est démontrée de part et d'autre quand vous vous trouvez d'un côté ou de l'autre de cette prise de position-là, c'est que le monde municipal, on est vraiment dans un cul-de-sac présentement au niveau financier. Ce n'est pas pour rien qu'on ait mis de l'avant un chantier sur la fiscalité municipale. On est allé chercher deux sommités, Monique Jérôme Forget, Nicolas Marceau. Puis l'objectif, c'est justement de revoir un peu toute cette fiscalité municipale-là, parce que présentement, le monde municipal, ben, les surplus, je veux dire, ça n'existe plus, les surplus pour le monde municipal. On est vraiment dans le sac. Que ce soit pour des vidanges ou pour autre chose, la réalité, on a vraiment besoin du financement. Les portions qui venaient du gouvernement du Québec, par exemple, dans le cadre pour faire des projets, mais il y a à peu près une dizaine d'années, on avait 8 % du plan quinquennal en immobilisation du gouvernement qui venait dans le monde municipal. On est rendu maintenant à 4 % du PQI. Donc, tu sais, les subventions diminuent au maximum. Mais de l'autre côté, les réalités, vous les voyez, les infrastructures à travers le Québec.
Non, je comprends votre guerre contre le gouvernement provincial et je suis très d'accord, notamment ce qui a trait à l'itinérance. On en parlera un peu plus tard. Mais est-ce que les municipalités vont vraiment taxer les jeunes familles qui ont de la misère à arriver, qui n'ont pas d'accès à la propriété parce qu'ils ont plus de couches de bébés dans leur vidange?
Comme je vous dis, sans rentrer nécessairement dans le débat, mais je l'ai pour connaître certaines villes qui l'appliquent. Vous savez, quand des fois ça y va avec le nombre de gens qui sont à la maison, le nombre d'enfants, donc ça ne veut pas dire nécessairement que c'est pareil du pareil au même. De un et de deux, ben faut savoir aussi que si par exemple vous êtes seul puis vous avez moins de levée, ben vous allez comprendre qu'au bout de la ligne c'est une économie. Donc si c'est dans un souci, mais comme vous le dites.
Mais justement, quand c'est une économie, là, je suis seul puis je suis une économie, la ville vas-tu m'ordonner de mes taxes?
Ben, c'est que vous allez payer moins cher au bout de l'année.
Ben non, mes taxes municipales, que je sois seul ou une famille, ça reste la même, c'est selon l'évaluation municipale.
Si vous y allez avec le principe par levée, ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui est seul puis qui traite bien, ses vidanges sont bac noir parce qu'ils mettent plus dans le bac brun, ils mettent plus dans le bac. T'sais, genre, moi, je suis maire aussi d'une ville à Mascouche, là, puis j'ai des citoyens qui, malheureusement, ben le bac bleu et le bac brun, ils l'utilisent pas du tout, là. Puis quand ça va à l'enfouissement, ben les villes, on a des montants importants qui s'en vont pour l'enfouissement par tonne qui est enfoui. Donc, tu sais, c'est tous des facteurs. Ça, je vous dis, chaque réalité, chaque règlement, mais il faut toujours dire qu'il n'y a rien de gratuit. Donc, qu'on taxe ça ou qu'on taxe autre chose. Moi, le message principal que j'ai le goût de vous partager aujourd'hui, c'est que le monde municipal, on est vraiment dans un cul-de-sac financier. Ça, c'est notre réalité. Puis des fois, il y a des idées, des bonnes idées, des moins bonnes idées, des idées qui se travaillent, des idées qui se mobilisent, des idées qui... Mais, je veux dire, clairement, si quelqu'un a eu cette idée-là, c'est parce qu'il y a besoin de financement, mais il y a besoin de nouveaux revenus. Là. Ça, c'est partout pareil.
Mais avant de poser la question par rapport aux revenus et tout ça, parce que ça m'intéresse, là, j'en ai une petite que j'aimerais vous laisser une petite minute pour y répondre, parce que les taxes, c'est difficile aussi pour les citoyens. De plus en plus, on est taxé sur... toutes et une multitude de choses, du moins à Québec, là, c'est la chose qui a déplu le plus aux citoyens et aux citoyennes lors du dernier mandat de Bruno Marchand. Les gens en arrachent, vous savez, pour la situation économique de tous. C'est la même réalité. Les poches saignent. À Montréal, je regardais hier, puis dans certaines villes, il y aurait des puces électroniques sur les bacs, puis là, la ville comptabilise le nombre de ramassages à chaque année, puis ça en permet 12 gratuits, un par mois, là, si j'arrondis. Puis après, on commencera à facturer du ramassage supplémentaire. Ce serait le fun de voir tout ce qui est possible aussi, peut-être dans une réduction de coûts, mais qui n'est pas un transfert aux citoyens, aux citoyennes, non?
Oui, mais de l'autre côté, je suis obligé de vous dire une chose. Hein. Tu sais, quand on se fait dire, nous, les municipalités, prenez votre compte de taxes, divisez-le par mois. Vous allez voir que le montant que vous payez, c'est pratiquement le même montant que, par exemple, un compte d'Hydro-Québec. Puis calculez tous les services que vous recevez par mois comme municipalité, tout ce qui est donné. Puis la deuxième chose, qu'on fait souvent des comparatifs, hein, les gens vont finir leur année et dire « Yes, le gouvernement provincial me renvoie un beau chèque à la fin de l'année. » Mais pourtant, c'est pas, il renvoie pas un chèque, c'est parce que vous n'avez trop payé. Vous savez même pas la portion que vous repayez en impôts de plus.
C'est dur à gérer parce que le monde va commencer à aller jeter les ordures chez le voisin, dans des gros bacs qu'on voit, mettons, pour les commerçants. Puis là, le commerçant va commencer à payer pour le poids de son bac ou de son gros, sa grosse benne à ordures, mais finalement, ça sera pas ses ordures. Il va y avoir quelque chose là à gérer.
Ben, moi, je connais des villes qui le font déjà. Je veux dire, c'est quand on est passé dans plusieurs villes au Québec de deux, on passait aux semaines les vidanges, on est rendu aux deux semaines dans plusieurs villes. Il y en a qui sont rendus aux trois semaines. Au début, oui, il faut que tu parles avec tes voisins, t'essayes de communiquer. Je le répète, là, je veux dire, il n'y a rien de gratuit. Puis de l'enfouissement pour les municipalités, ça coûte excessivement cher. Le monde ne se doit pas aller que creuser, regarder comment coûte l'enfouissement dans les municipalités. Maintenant, je le répète, moi, j'ai pas le goût de m'ingérer dans des conflits ou dans des idéologies différentes dans chacune des municipalités de votre région. Mais ce que j'ai le goût de vous dire, puis ça, pour moi, c'est important, c'est la fiscalité municipale. Il y a des gens qui font preuve d'audace, d'initiative, des bonnes, peut-être des fois des moins bonnes, ça leur appartient. Mais de notre côté, nous, clairement, ben, ça prend plus de revenus pour le monde municipal. Puis c'est quand tantôt vous avez dit que c'est un combat avec le gouvernement du Québec. C'est pas un combat avec le gouvernement du Québec. C'est des données, c'est factuel, là. La portion du PQI qui vient des municipalités il y a 10 ans puis aujourd'hui, on a diminué de 4 % par année, malgré que le PQI a augmenté massivement. Puis vous le voyez à travers le Québec, là, nos tuyaux, ça brise de partout. Ça, c'est nos réalités, puis on demande d'avoir plus de financement pour s'occuper justement de nos infrastructures.
Monsieur Tremblay, on parle avec Guillaume Tremblay, président de l'Union des municipalités du Québec et maire de Mascouche. J'allais aller à l'Hôtel de Ville de Québec. Si vous prenez les escaliers puis vous descendez en basse ville, vous allez arriver dans Saint-Roch, puis vous allez tomber devant un mur d'itinérance. Qu'est-ce que le gouvernement attend pour le gérer, le problème d'itinérance? Ça n'a pas de sens que cette responsabilité-là vous revienne sur les épaules?
Bien, pour le gérer, ce problème-là, moi, d'abord et avant tout, il faut le reconnaître. Et, tu sais, on l'entend peu ou pas là, de la part des... C'est pratiquement même pas un enjeu là, dans la course.
Ben non, Jonathan Julien, ici, qui était ministre de la Capitale-Nationale, disait « ça va bien dans Saint-Roch alors que les commerces ferment parce qu'il y a trop d'itinérance ».
Ben oui, puis je sais qu'à Québec, même, il y a des entreprises qui se payent des agents de sécurité pour se rendre à leur auto, à leurs employés. Donc, tu sais, c'est une réalité. Il faut reconnaître ce problème-là. Puis c'est un problème qui est majeur. Le monde municipal, on est vraiment prêt à faire notre part. Mais encore faut-il, je le répète, tout est une question de financement. Que vous recalculez d'il y a 15-20 ans, mais avec le même dollar. Justement, on en parlait tantôt, on s'occupait des vidanges, on s'occupait des nids de poules, puis on s'occupait de la caserne de pompiers. Mais maintenant, quand vous rajoutez l'itinérance, vous rajoutez le logement social, c'est toutes des affaires...
Ça, je vous l'accorde. Je veux juste pas qu'on taxe la jeune famille qui met un petit peu trop de déchets parce qu'ils ont des couches de bébés. Je veux qu'on aille chercher l'argent ailleurs que dans les poches de ce citoyen-là qui fait tout pour arriver à la fin du mois.
Je peux pas dire que je suis en désaccord avec ce que vous dites. Cependant, je le répète, dans chacune des villes qui l'ont appliqué, prenez le temps de lire le règlement, parce que j'en connais qui l'ont appliqué sur le bac brun, le bac noir. Il y a des villes, justement, quand c'est des familles, ben ils donnent des levées de plus parce que, justement, il y a des couches. Mais on arrête ce débat-là si vous voulez pas rentrer dans une chicane.
Non, mais vous nous donnez quand même des munitions sur quoi aborder, par exemple, quand on va parler avec le maire de notre ville, si jamais ça s'en va officiellement vers ça. Peut-être en terminant, M. Tremblay, vous arrêtez pas, depuis le début de l'entrevue, de parler du manque, par exemple, d'argent qui arrive dans les villes puis les surplus budgétaires, mais... D'une façon très claire, on voit aussi qu'on vous demande, du côté des municipalités, de travailler sur beaucoup plus d'enjeux que vous aviez à travailler auparavant. Est-ce que vous seriez prêt à redemander une redéfinition de tâches selon les paliers politiques municipales, provinciales, fédérales pour le futur?
Bien, il va falloir faire un grand chantier, une grande rencontre pour justement savoir c'est quoi les responsabilités des différents paliers. Ce que vous dites, c'est je peux pas être plus qu'en accord parce qu'à un moment donné, nos responsabilités sont tellement rendues grandes. Fait juste regarder dans les corps de police des municipales la réalité de ce qu'on vit. C'est beaucoup de problèmes de santé mentale, beaucoup de problèmes d'itinérance. C'était pas des responsabilités qu'on avait. Donc, d'avoir justement cette grande réflexion-là, à savoir les différentes responsabilités qu'on a dans chacun des paliers, il va falloir s'arrêter à un moment donné parce que au-delà du fait qu'on se lance... d'un côté puis de l'autre la rondelle, vous avez des gens qui sont pris dans ces réalités là dans ces réalités là puis il va falloir s'occuper des gens puis mettre une manée la population au cœur de ces problématiques là. Nous, le monde municipal, on est prête, mais faut être deux pour danser. Ça va nous prendre clairement le gouvernement provincial pour nous accompagner puis avoir cette ouverture pour cette discussion-là.
Guillaume Tremblay, président de l'Union des municipalités du Québec et maire de Mascouche. Monsieur Tremblay, je vous remercie infiniment pour le temps que vous nous avez accordé à l'émission On en jase. Au plaisir de se reparler de poubelle un autre tantôt.
On va faire parler de poubelle. Bonne journée.
Salut, bonne journée, Guillaume Tremblay, président de l'UMQ. Énormément de réactions par texto. J'en lis une, puis je pense que c'est celle qui résume le mieux ma pensée et la pensée de tous les auditeurs qui ont texté au 418-971-1025. 101, ça vient de Carl. La fiscalité municipale serait meilleure si les villes ne s'occupaient que des services de base de façon efficace. Pour moi, impossible de trouver intelligent l'argument que ça prend des revenus de plus pendant que l'on déneige des pistes cyclables, qu'on fait des patinoires extérieures réfrigérées, quand on se dit capitale de l'hiver, que l'on néglige la base pour du flash en conférence de presse, etc. Et c'est là que le bas blesse. Je comprends qu'il y a des responsabilités additionnelles qui sont venues sur le dos des villes. L'itinérance en est une très frappante, mais il n'y a pas de gestion efficace à l'heure actuelle au niveau des municipalités. C'est pour ça que les gens embarquent pas dans le discours de M. Tremblay.
Et ça, c'est quand même d'une importance capitale de savoir c'est quoi nos priorités dans la ville et qu'elles soient majoritairement entendues puis désirées par les citoyens et citoyennes. Mais écoute, le vote au municipal s'ensuit, là. Mm-hmm. Si vous votez pour Bruno Marchand, vous allez voir sa plateforme électorale, puis c'est ça qu'il propose, bien, votez un peu pour ses projets. On pourrait dire que ça a été pauvre aux dernières élections au niveau de l'opposition puis des autres partis.
Oui, très pauvre.
Qui étaient sur, sur les fiches de vote, mais il y a un point important à pas laisser aller, c'est celui du fait qu'on met de plus en plus dans la cour du municipal des choses comme l'itinérance, le logement social. Puis on se conforte, le provincial, là. Ah, ça fait une couple d'années que le municipal gère ça, met de l'argent là-dedans. Ben, ils le font, fait que on va continuer de surfer là-dessus.
Ouais, on se déresponsabilise.
Même chose au niveau du fédéral. Si on revoyait les listes de tâches là, au niveau politique de chacun des paliers, puis on verrait où est-ce que malheureusement ou heureusement, il faut travailler ensemble, puis là, peut-être faire une nouvelle gestion des fonds, on avancerait beaucoup plus qu'en ce moment dans le laxisme, dans la latence, puis dans « moi, je te pitche la balle de ton bord, toi, tu me pitches la balle de ton bord ». C'est ça qu'on voit surtout en itinérance en ce moment.
Oui, en effet, tu as entièrement raison. Rémi Villemur, chroniqueur à l'émission On en jase, les mardis et jeudis, s'installe avec nous au retour de la pause. On va continuer à parler de municipal. Est-ce que le maire Marchand, c'est le maire des poursuites avec ce qui arrive avec Simon Laberge, le courtier immobilier? Et également, y a-tu trop de réunions dans votre milieu de travail? Hey, ça, je veux vous entendre là-dessus. 418-971-1021. Nous, à Boulevard 101, ça va bien. Il n'y en a pas trop, le clair communication est efficace. Mais oh my God, que j'ai travaillé pour des organisations où on avait la réunionnite. Faites-vous partie de ceci. 418-971-1021. On en parle avec Rémi Villemur au retour de la pause à l'émission On en jase sur Boulevard 101. Émission On en jase, émission d'actualité, d'affaires publiques, d'analyse politique. Bref, notre mission pendant 2 heures, de midi à 14h, du lundi au vendredi sur les ondes de Boulevard 101, c'est que quand tu finis d'écouter l'émission, t'es au courant de tout ce qui s'est passé dans ta ville et ailleurs d'important en termes d'actualité et de politique. Je vous le rappelle, 418-971-1021 pour interagir. Préparez-vous à interagir lorsque Rémi Villemur, dans quelques instants, va nous parler des réunionnites dans les entreprises. Est-ce que vous vivez ça? Moi, j'ai déjà vécu ça, puis je suis bien content de m'en être débarrassé en travaillant. Le clair communication. BLVD.fm, c'est notre site web. Vous allez pouvoir aller écouter les meilleurs moments et surtout nous écouter via la web radio. BLVD 101, notre application sur App Store, Google Play Store. Vous pouvez nous écouter partout où vous allez. Twitch.tv/BLVD/FM pour venir nous voir en studio et abonnez-vous à notre page YouTube. Il y a du contenu exclusif qui s'y retrouve. À la météo, je le rappelle, ça semble se dégager sur Québec. C'est moins 3 degrés. Il y aura cependant un petit peu de neige ce soir qui va se terminer vers la fin de la soirée, début de nuit. Moins 1 degré pour demain, généralement ensoleillé. Moins 1 neige intermittente pour samedi et 1 degré et nuageux pour dimanche. Qu'est-ce qui se passe au niveau des pannes électriques, Pascal? Est-ce que Chaudière-Appalaches est encore touchée?
Oui, ça bouge pas beaucoup côté Chaudière-Appalaches, je vous dirais, mais il y a des auditeurs qui nous disaient qu'ils ventaient pas à peu près parce que je demandais qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça bouge pas. Il paraît que les vents sont très, très forts. Mais bon, la grande majorité des pannes devraient être réglées d'ici 23 heures. C'est ce qu'a dit le premier ministre François Legault ce matin en point de presse conjoint avec Hydro-Québec. Et là, dans le secteur de la capitale nationale, on est toujours autour de 600 là, adresses sans courant, toujours majoritairement autour de Jacques-Cartier et de l'ouest de la ville. Sinon, je te dis à Palache, comme je vous disais, on est autour de 9000 foyers.
En manchette, il y a notre ami Pic Turmel, des nouvelles accusations contre lui.
Ben écoute, c'est ton ami, je te souhaite de peut-être revoir ta gang parce que
en effet,
ça augure mal pour Dave Pic Turmel. Il est toujours en Italie, mais là, il y a une pluie d'accusations, de nouvelles accusations qui sont tombées sur la tête de Dave Picturmel. Là, il va faire face, entre autres, pour des crimes commis au Québec, d'accusations de gangstérisme, de trafic d'armes prohibées, d'enlèvement à l'aide d'une arme à feu. Ça vient juste de tomber. Ces 9 nouvelles accusations-là qui ont été déposées contre le leader du gang Blood Family Mafia. Je vous rappelle, il est incarcéré depuis maintenant à peu près un an en Italie. Il avait fui le Québec et ça concerne des événements qui ont eu lieu au printemps 2024. Alors, ça vient de s'ajouter sur la tête du Pic Turmel, ces accusations-là. On va les suivre. Il se posait d'être rapatrié aussi, hein, rappelez-vous, ici au Québec. Le chauffeur qui a décimé une famille de Beauport en septembre 2021 demande une permission de sortie sans escorte. C'est Éric Légaré, 48 ans. C'est ce matin, devant une audience auprès de la Commission des libérations conditionnelles du Canada, qui demandait une permission de sortie pour rapports familiaux et perfectionnement personnel. Verdict qui devrait être rendu d'ici 15 jours. Je vous rappelle qu'il a écopé de 16 ans de prison pour avoir tué 4 membres d'une même famille en état d'ébriété. Il roulait à 130 dans une zone de 70. Mark Carney repart déjà, Pierre Poilievre aussi. À peine quelques jours après être revenu, Mark Carney, premier ministre du Canada, s'envole aujourd'hui pour sa 17e mission depuis son entrée en poste comme premier ministre il y a à peine un an. Il va aller visiter la Norvège, le Royaume-Uni, avec l'objectif de monter la fiabilité du Canada sur le plan militaire aux alliés. Le chef conservateur, Pierre Poilievre, lui, va quitter pour une semaine aux États-Unis demain. Mission à Détroit, au Michigan. Il va rencontrer des dirigeants de l'industrie automobile et des élus. Il y a également plus de logements militaires à Valcartier à prévoir. Ajout de 1180 logements. C'est le Soleil qui rapportait le tout, comme quoi le parc immobilier de la base militaire va passer de 710 à 1890 logements. Peut-être que ça a à voir avec les conflits à l'international. Ici, dans notre ville, Bruno Marchand qui veut porter plainte. Donc, il accuse le courtier immobilier de Via Capital, Simon Laberge, d'être allé trop loin en utilisant les termes « malade mental » dirigés vers lui dans une vidéo sur TikTok. La vidéo a été retirée des réseaux sociaux, mais elle se voulait d'opinion portant sur le projet de tramway.
Et pour en parler, on va rejoindre immédiatement notre chroniqueur Rémi Villemur, animateur au 99.5 Montréal, qui est avec nous les mardis et jeudis pour débuter la deuxième heure du show. Rémi, est-ce que notre maire a l'épiderme trop sensible?
Oui, la réponse est oui. Je ne passerai pas par quatre chemins, ni par trois rivières, ni par deux pistoles. Non, non, non. La réponse, c'est oui. Et ça m'étonne un peu parce que ça commence à faire un petit bout qu'il est là. Peut-être qu'il en reçoit de plus en plus de commentaires désagréables, mais ça fait partie de la game. Puis, tu vois, on entend souvent des élus nous dire ça a changé avec la pandémie. Bon, ben Bruno Marchand, il était là durant la pandémie. Est-ce que je me trompe ou...
Non, en effet. Tu sais, il y a des commentaires là sur les médias sociaux qui ont vraiment pas de sens. Ça, il faut les décrier. Mais à un moment donné, Rémi, quand tu es un élu municipal et que tu prends des décisions qui vont à l'encontre de tes citoyens, tu vas te faire critiquer durement.
Oui, oui. Puis, tu sais, là, on doit toujours faire cette espèce de petit exercice de catéchèse. Je commence en dénonçant les propos qui lui ont été adressés. D'accord? Bon, ça, yes. C'est la première des choses. Je ne prends pas le bord de ce monsieur que je ne connais pas du tout. C'est juste que, à un moment donné, si tu dis « je dénonce ces propos-là », donc si je suis Bruno Marchand, je dénonce ces propos-là ou le discours public doit changer, moi, je suis fine, hein? Je suis là, moi, je suis en arrière de vous.
Moi aussi.
Mais d'utiliser des fonds publics, hein, pour sauver sa réputation, comme si c'était notre argent à nous, hein, c'est-à-dire à nous étant Bruno Marchand, c'est mon argent. Non, c'est pas ton argent, c'est l'argent des citoyens de Québec. Il y a un gros problème avec ça. Là. Énorme problème avec ça.
Exactement. Oui, puis je vais te poser la même question qu'Yannick Marceau m'a posée dans le dossier justement avec Bruno Marchand, du fameux salut nazi, où là, il doit se défendre. Un salut nazi qui n'en était pas un du tout de cette citoyenne-là. Il m'a posé la question, est-ce que Bruno Marchand irait se défendre en cour avec sa propre argent? Je lui ai répondu non. Donc, je te lance la même question. Est-ce que Bruno Marchand poursuivrait ce courtier immobilier avec sa propre argent?
Ben non, c'est sûr qu'il ne le ferait pas. Parce que s'il le faisait, hein, c'est-à-dire que s'il le faisait, ça paraîtrait bien quand même. S'il allait en cour, tu sais, on parle de gains politiques tout le temps, de marketing politique, de faire de bien paraître. Si jamais Bruno Marchand se défendait avec son propre argent, ben ça passerait bien auprès de la population. Les gens diraient « Ah, voici quelqu'un qui se tient debout, mais qui utilise. Non, mais il fait pas ça. Il utilise les fonds de la ville. Donc ça représente un gros, gros, gros problème. Puis dans le cas du salut nazi, c'est pire, je pense, honnêtement. Là, vous en avez amplement parlé, là. Mais la personne, enfin, il s'était excusé. Et là, ensuite, la personne, bon, elle est allée un peu trop, elle est allée un peu loin avec le. C'est quoi? C'était 400 000, je pense, là.
Ouais,
C'est quand même beaucoup
exactement.
d'argent. Mais c'était quoi, à la base? C'était quoi la nécessité de sortir des gros mots comme ça? Hein? Puis il savait très bien que ça allait se diriger vers ça. Il aurait dû prendre, en tout cas, je ne sais pas, quelque chose comme tirer une leçon de cet événement-là et se dire, là, c'est la dernière fois que j'utilise des fonds publics pour aller en cours comme ça. Et quand ça commence à ressembler à quelqu'un, tu me posais la question sur l'épiderme sensible, ça
Oui.
commence à ressembler à quelqu'un qui n'aime pas du tout la critique, point. Et ça, c'est un gros, gros problème. C'est grave en politique. Il faut s'inquiéter des gens qui font de la politique puis qui ont pas compris que ça fonctionnait comme ça.
Hey, j'aime tellement où tu amènes parce que c'est justement ce qu'un auditeur vient de nous écrire. Si M. Marchand était beaucoup moins arrogant avec ceux qui se questionnent, qui le questionnent, ce serait mieux aussi. Et oui, tu sais, pour avoir été justement sur le terrain pendant 2 ans à suivre Bruno Marchand, quand tu le questionnes sur une de ses décisions, il devient il devient plus hautain. Il essaye de se mettre au-dessus de la masse. Et ça, je sais que ça passe pas auprès de la population.
Mais c'est le syndrome du premier de classe. Il n'est pas le seul. Il y en a beaucoup qui, après être arrivés en politique, se sont fait applaudir pour des bonnes raisons. Beaucoup de ces politiciens-là sont des très bons individus, des bons humains, d'accord? Des bons conjoints, des bons pères, des bonnes personnes. Mais là, à un moment donné, il y a une espèce de buzz qui s'installe. Ah, OK, on s'intéresse à moi, on fait des reportages, on me reçoit à Montréal, on m'appelle de Montréal. On s'intéresse à moi, on dit, on essaie de comprendre comment je fais de la politique autrement. Et ça, c'est une passe. C'est toujours
J'aime
une passe en
tellement ça.
politique. Non, mais c'est une passe en
Ouais.
politique. C'est pas censé durer. Et à un moment donné, il y a des gens qui, avant que ça ne dure plus, parce que j'ai des petites nouvelles pour Bruno Marchand, un jour, il va perdre une élection
Oui,
municipale.
ça arrive tout
Il
le
va
temps.
s'en, ça fonctionne à tout. C'est tout le temps comme ça qu'on quitte la vie politique, en 95% des cas. Mais avant que ça arrive, hein, avant qu'il s'en aille, il y a des gens qui vont commencer à dire, hey, on est mal à l'aise avec ça. Tu nous parles de tramway, mais il y a la majorité de la population qui n'est pas derrière ou dans un autre dossier. Et là, c'est la réaction de ces gens-là qui est intéressante, de voir est-ce qu'ils sont pour le dialogue, est-ce qu'ils sont pour une certaine forme de pragmatisme ou ils sont dans une certaine forme d'idéologie. Hein? Il y a juste moi qui pense de cette façon-là, puis les gens qui ne sont pas d'accord avec moi, c'est quoi? Est-ce que vous vivez sur la même terre que moi? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Faut-il que je parle plus fort? Faut-il que je vous poursuive? Hein? Donc, ça pose un problème.
Je te fais entendre justement ce que Bruno Marchand pense de l'opposition officielle de la ville à chaque fois qu'elle le questionne. Et là, dans ce cas-ci, elle a questionné le fait qu'on est en retard dans nos infrastructures souterraines et elle a tout simplement dit, est-ce qu'on a mis les bonnes priorités dans le premier mandat de Bruno Marchand si on est en train de quêter 3-4 milliards au gouvernement du Québec? Voici sa réponse.
Leur prétention, c'est de voir des complots à pas mal d'endroits. Ils sont assez bons là-dedans. C'est des champions du complot. Il n'y a pas de complot. On l'aurait sorti en novembre, en décembre, ça aurait rien changé. Puis vous avez vu, on a donné. Vous avez la chance, c'est pas toutes les villes là, qui ont ça. On a un bureau de gestion qui. On vous a tout transmis de façon transparente. Les faits sont là. Pour moi, on agit avec toute la transparence nécessaire. Ce sont les données des citoyens. On avait promis ça en 2021, puis on continue.
L'opposition officielle qui est Respect citoyen, que son chef Stéphane Lachance, disait, écoutons, c'est donc bien bizarre qu'on soit ce rapport-là au mois de mars, quelques mois après l'élection. Pourquoi ça n'a pas été démontré, ça, lors de la dernière présentation du programme d'immobilisation de la Ville de Québec? Il avait raison, Stéphane Lachance.
Bon, il manque le contexte, je vous avoue, moi je suis Montréalais, là, donc ce dossier-là m'échappe un peu, mais le mot complot, par contre, c'est spécial ça
C'est
d'utiliser
fort, hein?
quand il est question d'une opposition dont les manœuvres, je ne peux pas en juger, mais ce n'est pas des gens en ligne sous des acronymes qui s'imaginent que Bruno Marchand est un reptilien parce qu'il porte des bas colorés, là. On parle d'une opposition, de gens qui ont fait élire des conseillers municipaux puis qui disent on n'est pas d'accord avec vous. Le mot complot ne devrait pas ressurgir comme ça, aussi vite. C'est le dernier recours, là, hein, le mot complot. Alors, on n'est pas habitué de faire face à une opposition, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on n'est pas habitué, on est habitué de parler tout seul. C'est l'entre-soi. Ça, c'est très dangereux, l'entre-soi municipal. Il y a beaucoup de villes où il y a peu d'opposition, OK, parce que ça fonctionne comme ça, parce que les partis sont nouveaux, puis se présentent, puis on ne leur fait pas confiance. Donc, on va vers des partis plus vieux ou vers des personnalités fortes qui ont déjà fait leur marque quelque part. Et là, les gens se ramassent avec un hôtel de ville qui domine. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas écouter l'opposition. Pas une raison pour poursuivre des gens qui nous insultent aussi. On est censé laisser ça passer. On est censé laisser ça passer. Puis là, en passant, si ça avait été une menace, ça aurait été différent. Mm-hmm. Ça aurait été extrêmement différent. Mais ça ne semblait pas être une menace dans la vidéo du monsieur.
Non, en effet. Puis justement, quand les maires règnent trop sur leur ville, puis on va en parler dans quelques minutes avec Lanny Dufour, notre chroniqueuse économique, bien, ça donne, Rémi, pour t'expliquer, un moratoire sur la construction à Lévis qui va aller jusqu'en 2028 sur la construction. Ça donne 25 % des eaux usées, donc le caca qui se retrouve dans le fleuve. Puis ça donne un trou budgétaire de 13 millions qu'on a caché à tout le monde. Fait que c'est sain d'avoir une opposition qui questionne. On change de sujet. Les réunionnites dans les organisations. As-tu déjà fait partie d'une organisation où tu étais toujours en réunion? Moi, au RTC, je capotais. Des fois, on pouvait être à salaire à peu près à 1,5 million de salaire autour de la table. On faisait une réunion de 2 heures, puis on sortait, puis on n'avait pris aucune décision. Je voulais m'arracher les cheveux de la tête. Je disais à mon boss, enlève-moi ça de mon calendrier. Mon temps est beaucoup trop précieux pour aller pelleter des nuages.
Je n'ai pas eu cette malchance, parce que moi, mon parcours de vie est différent, mais je sais une chose, par contre, c'est que pour parler avec beaucoup de gens, puis on a des chiffres, là, aux États-Unis, par exemple, les gens qui pratiquent le métier du savoir, c'est presque 40 % de leur temps qui passe en réunion. 40 %, ça veut dire que dans une journée, là, c'est presque la moitié, là, finalement, là, du temps qui est dans une réunion. Moi, ce qu'on me rapporte, c'est, il y a toutes sortes de choses, puis je pense que la solution se trouve au milieu. Bon, premièrement, c'est beaucoup de commentaires négatifs. On nous dit, une réunion, c'est pas juste qu'il y en a beaucoup, c'est que c'est souvent difficile à démarrer une réunion. Tu t'assois autour de la table, on s'était dit 9 heures, premièrement, c'est pas tout le monde qui est arrivé. Fait que là, tu sais, on attend le dernier.
Puis là,
on
est 12. Le social jusqu'à 9h30 de comment ça a été ta fin de semaine?
Oui, mais ça pose un problème, hein, parce que quand on est 12 puis qu'il y a une personne qui est en retard, c'est pas normal que 11 personnes attendent. Donc, on devrait commencer. Puis en réalité, il devrait même pas avoir. Puis on est bon au Québec, on est gentil, là. Donc on attend premièrement, puis quand la personne arrive, si on a eu le malheur de commencer sans elle, on fait un récapitulatif. Fait que là, ça fait 10 minutes que ça a commencé, puis on dit, écoute, José, tu sais, t'es arrivé en retard, mais on va repartir depuis le début. Là, tu fais, wow, la personne qui est arrivée à 8h45, là, était peut-être d'avance, mais elle est pénalisée en tabarnouche, là, parce qu'elle a fait ses choses, elle a fait les affaires parfaitement, là, tu sais, comme un bon élève. Bon, alors, les réunions qui démarrent mal, ça, c'est incroyable. Les réunions qui sont mal organisées aussi, là. Tu sais, t'as comme un genre de PowerPoint, puis là, l'ordinateur marche pas. Puis là, ah, OK, je vous ai-tu envoyé le lien, là, pour ouvrir ça? Ouais, mais le lien marchait pas, tu nous as envoyé le mauvais lien. Là, tu dis, ça te tentait pas de nous le dire hier soir que c'était le mauvais lien, comme ça, je vous ai renvoyé le bon lien. Puis là, c'est, oui, mais c'est parce que tu me l'as envoyé, mais mon adresse courriel, c'est plus la bonne. Puis tu fais, ah, qu'est-ce qui se passe ici, là? Tu sais, finalement, la technologie ne remplit pas ses promesses. Hein. C'était censé nous faciliter la vie. Puis finalement, il n'y a rien comme le crayon et le papier. Là. D'accord? Ça, c'est ce qu'on me rapporte principalement. Moi, par contre, je vais juste me méfier d'une petite affaire. Je parle souvent du télétravail. Hein. Je vous dis souvent que c'est un piège que de rester attaché à cette affaire-là. Le monde a changé une fois pour rechanger une deuxième fois. On est revenu au présentiel, quel mot catastrophiquement laid. Ben, les réunions, les gens qui s'en méfient, pour moi, j'ai l'impression qu'ils se méfient aussi du social. Ils se méfient aussi de la nécessité de discuter de ce que tu fais depuis des semaines dans ton coin, devant ton ordinateur avec les autres. Donc, je ne dis pas non aux réunions, je dis oui aux réunions mieux faites.
Il y a un point qui n'est pas abordé là-dedans aussi, c'est que des fois, je trouve que dans mon parcours professionnel, en parlant avec des gens, on notait qu'il y avait des gestionnaires qui voulaient juste avoir l'air gestionnaire. Fait que des fois, tu as des rencontres, puis c'est la même chose qui se dit d'une rencontre à l'autre, ou plus ou moins, versus que ça aurait pris un courriel, puis encore là, les employés sont pas toujours bons, puis nous, on plaide tous coupables ici à Boulevard 101 pour les lire, les maudines de courriel. On doit faire un effort en tant qu'employé si on veut éviter la perte de temps dans une rencontre. Mais tu sais, des fois, c'est des ajustements par rapport à 2-3 personnes que tu peux rencontrer comme ça dans un corridor ou le dire. Tu peux te poser la question sur la nécessité aussi qu'un gestionnaire se donne de faire un meeting.
Ah oui, tout à fait. Bien, le gestionnaire, des fois, c'est, tu viens de le dire, il veut exister. Et pour exister, il faut qu'il donne l'impression aux employés par-dessus lesquels il est qu'il a une responsabilité puis qu'il a une importance. Donc, on organise un meeting, puis là, bien, on envoie l'invitation, puis on a l'impression que, ah, bien là, au moins, s'il se doutait de mon importance, il y a un meeting qui s'en vient. Après, il faut que le meeting ait un sens, pour qu'il y ait du contenu dans le meeting. D'accord? Ça, c'est un autre truc que je donne, là. J'ai aucune expertise là-dedans, mais pour, tu sais, il y en a eu des meetings dans lesquels j'étais, puis je me disais, mais ça donne quoi exactement? C'est cette affaire-là, ça donne quoi?
J'en ai tellement vécu.
Ouais.
Yes. Hey Rémi Villemur, j'adore toujours tes sujets. Merci beaucoup pour cette chronique. Merci justement d'avoir amené cette opinion diverse par rapport à Bruno Marchand. Et au plaisir de se reparler mardi. Je te souhaite une excellente soirée.
Bye-bye tout le monde. Ciao.
Salut Rémi. Rémi Villemur, excellent animateur au niveau du 99.5 Montréal. Si vous êtes dans le coin de Montréal, branchez-vous à lui. Il est là du lundi au jeudi de 18h à 19h et le week-end, le samedi, de 8h à 10h. On revient sur le moratoire à Lévis qui est prolongé jusqu'à l'année 2028. Ben oui, vous n'avez pas rêvé. Stephen Blaney, en campagne électorale, avait dit « Je vais vous régler ça avec des mesures temporaires. » Ben non, hier, il a annoncé moratoire jusqu'en 2028. Notre chroniqueuse économique, Lani Dufour, était présente à l'annonce de Stephen Blaney. On en parle dans quelques instants à On en jase sur Boulevard 102.1. Émission On en jase, ton émission d'actualité. On suit pour toi les dossiers municipaux, provinciaux, puis quand il le faut, fédéral et international. Je vous le rappelle, à la météo, ça va être un petit peu de neige ce soir qui va se terminer en fin de soirée. Demain, c'est moins 1 généralement soleillé, moins 1 pour samedi, neige intermittente et 1 degré nuageux pour dimanche. Panne électrique. Si vous avez une panne d'électricité présentement, ça va être réglé d'ici 23 heures. Parole de notre premier ministre François Legault. Et également au niveau de la circulation, ça va très bien. En début d'émission, on a parlé avec Émilie Laure, porte-parole au niveau du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Les routes sont sécuritaires. Pascal, nouveauté au niveau de la guerre tarifaire avec les États-Unis.
Bien, les tarifs de Trump, vous savez, ont été rejetés par la Cour suprême. Et là, l'administration Trump a lancé hier des enquêtes commerciales sur plusieurs pays pour consolider les politiques tarifaires du président. Le Canada ne figure pas sur la liste des pays visés par les enquêtes, contrairement au Mexique. Et ça, c'est la dernière tentative de l'administration Trump pour mettre en place des droits de douane à l'échelle mondiale. On vient de sortir ça. C'est fort intéressant. Le Canada n'est pas sur la liste. 9 nouvelles accusations contre Dave Picturmel, le leader du Blood Family Mafia. Nouvelles accusations qui ont été déposées aujourd'hui pour des crimes commis au Québec en 2024. Ah, la liste est longue. Gangstérisme, trafic d'armes prohibées, enlèvement à l'aide d'une arme à feu, avoir déchargé une arme à feu, trafic de stupéfiants. Je vous rappelle qu'il avait fui le Québec pour l'Italie. Il est toujours détenu, bien que les autorités aient donné le feu vert pour son extradition le 2 mars dernier. Et parlons, tiens, du prix de l'essence, parce que oui, le conflit au Moyen-Orient sévit encore. Le baril a remonté aujourd'hui. On est au-dessus des 100 $ américains, malgré une intervention des grandes puissances sur le marché. L'Iran va continuer de bloquer le détroit d'Ormuz. C'est là où ça se passe beaucoup, hein? Le nouveau guide suprême iranien, Mojabah Khamenei, prenait la parole publiquement aujourd'hui pour la première fois puis affirme vouloir venger les victimes de cette guerre et qui est prêt à livrer une guerre d'usure pour détruire l'économie mondiale.
Notre chroniqueuse économique Lani Dufour est avec nous en studio. Lani, comment vas-tu?
Ça va bien, vous?
Ça va super bien. Lani, tu étais à Lévis hier pour la présentation du plan sur le moratoire de Stephen Blaney, le maire de Lévis. Il a repoussé le moratoire jusqu'à 2028 sur la construction. Les faces étaient-tu longues dans la salle?
Non, pas tant pour vrai. Il n'y a personne qui était surpris là, de cette annonce-là parce qu'il avait fait un brefage technique avant. Il avait quand même glissé quelques fois par rapport aux échéanciers. Donc, personne qui était surpris. Je vous dirais que pour moi, la grande nouvelle, c'est... Puis elle est quand même positive, c'est l'ouverture pour 2027 de possibilité d'avoir des permis, donc d'émettre un permis, sachant que les travaux vont commencer pour avoir un 2 ans de prévisibilité, puis là, être capable de construire. Fait que c'est pas parfait, mais au moins, il se défile pas. Puis pour vrai, dans son delivery, là, sur scène, là, je mets mon chapeau de com, il était bon. Il a fait des petites jokes, il a fait classique. Là, tu sais, c'est quand même un bon vivant.
On en écoute une, justement, de ses blagues.
Ça va bien. Ma tante Moila, un matin, j'ai parlé à ma tante Moila, puis elle m'a dit, Steven, elle dit, je voulais t'appeler pour te féliciter pour être mère, mais là, elle dit, je sais plus si je dois te féliciter ou te dire dans quel bourbier t'es-tu embarqué. Ben, j'ai dit, écoute, ma tante, c'est une très belle aventure, et puis si j'avais, on a le choix dans la vie. On peut chialer, puis rien faire, ou bien se retrousser les manches, puis dire, ben, je vais essayer de faire partie de la solution.
L'humour aide toujours à désamorcer une situation.
Oui, et l'humour n'est pas quelque chose que je suggère à tout le monde en politique, à nos clients, parce que, écoute, des fois, quand tu essaies d'être drôle, ben t'es pas drôle, puis tu fais des malaises. Mais là, écoute, je sais pas s'il l'avait préparé, mais... c'est un bon vivant. Tu sais, il est sincère dans ce qu'il dit. Fait que pour vrai, c'était pas forcé non plus. C'était vraiment juste comme,
« Hey,
je vous jase. » Un peu informel, pas trop cassette. Puis tu sais, j'ai assisté à ceux de l'ancien maire, et là, je sais que tu vas m'amener là parce qu'il était présent.
Oui, je t'amène là, c'est clair.
Mais on était ailleurs en termes de discours. Il a fait un échange après ça avec la PDG. C'était bien quand même, là.
Mais là, c'est-tu vrai que Gilles Laulier, ex-maire de Lévis,
ouais,
que tout ce bordel-là est pogné à cause de lui, s'est pitché ses journalistes parce qu'il avait tellement de goût de parler?
Il avait le goût de parler, je pense.
Oh, mon
Dieu!
Il
a commencé, même la veille, à faire des petites entrevues.
Ouais, c'est ça. Puis là, on va écouter ce qu'il a dit d'entrée de jeu. J'en revenais pas quand j'ai entendu ça.
C'est exactement le plan de match qu'on s'était donné.
Le plan
qu'on
de
a présenté aujourd'hui, qui a été présenté d'ailleurs devant les gens d'affaires. Alors, pour nous, là, pour moi aujourd'hui, ce que j'ai entendu, c'est de la musique à nos oreilles.
De la musique à ses oreilles. OK, on arrête là, là. Lani, tu conseilles en communication des élus. Si tu avais un élu dans ton bureau qui, parce qu'il a développé les yeux fermés, se retrouve avec un moratoire sur la construction et une poursuite d'entrepreneurs qui peut aller jusqu'à 31 millions de dollars. Tu y conseillerais pas de dire que c'est le plan qu'on avait choisi.
Écoute, je pense que, tu sais, on connaît le personnage, il était là des années, il a de la misère à pas revenir puis aller dans les médias, mais entre vous puis moi, il jouait à la belle-mère un petit peu, là. Tu sais, puis il s'attribuait pas mal tout le crédit, puis il a été là un bon 20 minutes à scrummer avec les journalistes, puis en même temps, il laissait parler, puis là, tu sais, on est capable d'aller chercher des petites bribes ici et là. Et pour vrai, chapeau à M. Blainé de ne pas le tirer en dessous des roues de l'autobus parce qu'il aurait pu le faire, là. C'est classique, un politicien, on l'a... Écoute, vous écoutez un peu la période de questions, vous aussi, là, à Québec. Facile, écoute, ben tu fais deux mandats que la CAQ est là, puis ils reviennent encore avec...
C'est de la faute des libéraux.
C'est la faute des libéraux.
Ça clique, c'est de la faute des libéraux.
Ça fait 8 ans qu'ils sont là. Fait que, tu sais, imaginez comment ça leur a été facile et il se retient. Après, écoute, je sais, j'ai pas le pourquoi du comment, mais moi, je le salue parce que, justement, ce serait facile pour lui de se défiler en disant « ben écoute, moi, j'arrive avec un passif, c'est pas de ma faute. »
Tu viens de parler du provincial. Je fais justement un saut au provincial parce qu'on parle énormément de la taxe sur l'essence. Bernard Drinville a sorti au début de la semaine. « Hey, moi, là, la taxe sur l'essence, avec l'augmentation du prix du pétrole, je prends ça, je remets ça dans les poches des citoyens. » Hier, le PQ a dit « Fini la double taxation, la TVQ sera pas perçue sur un prix qui est déjà taxé par d'autres taxes. » Et ce matin, on avait Pascal Paradis dans Marceau le matin. Puis, je lui ai demandé de m'expliquer la fameuse bourse carbone. On l'écoute.
Parce que c'est un marché qui a été créé, marché dans lequel des entreprises achètent des droits d'émission, donc ils investissent, ils changent aussi leurs pratiques commerciales. Donc, si on élimine le marché du carbone, soudainement, il y a toutes ces entreprises-là qui ont investi énormément, qui vont se tourner vers le gouvernement puis qui vont dire « ben nous, on avait investi là-dedans, puis il y a des gens qui font de bonnes affaires dans le marché du carbone, parce que notamment, ça attire des clients, ça attire des gens qui disent « moi, je veux faire affaire avec des entreprises qui ont ces politiques-là puis qui sont sur des marchés du carbone. » C'est le cas de beaucoup de clients.
Avez-vous des exemples concrets?
Ben là, j'ai pas d'exemple à vous nommer aujourd'hui, là, mais il y en a des dizaines et des centaines là, qui sont sur le marché du carbone.
Lani, là, aide-moi, aide nos auditeurs, aide Pascal, parce que là, bourse carbone, taxe carbone, là, le PQ, la CAQ, ben, ils vont me dire non, 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 la bourse carbone, ça crée plein de retombées économiques. Quand on n'est pas capable de me donner un exemple concret, je me dis que c'est juste une patente à gosse qui sert à rien.
Écoute, tous les élus se sont prononcés et les chefs de parti cette semaine par rapport à ça, notamment, oui, la taxe. La taxe, on l'avait au Canada et au Québec. On ne la payait pas en double, mais elle a été abolie au Canada. Et là, c'est ce qu'on vient critiquer. Puis on ne parle pas de la TVQ, on parle de la taxe carbone, qui est finalement pour nous le marché du carbone, qui n'est pas du tout, dans le fond, un prix qu'on paie à la pompe, mais vraiment, comme il expliquait, ce qui est donné par les distributeurs au gouvernement, parce qu'on a un marché avec la Californie où est-ce que, justement, tu peux vendre ça. Il y a des organisations comme, par exemple, Coop Carbone, eux, qui vont les acheter en amont pour dire, bien, nous, on va diminuer ce qu'il y a de disponible pour, justement, atteindre des cibles. Chose qui est très bonne du marché du carbone que le Québec et beaucoup l'envie, là, la Nouvelle-Zélande voulait copier notre modèle aussi, c'est qu'on peut atteindre des cibles parce que c'est quantifié puis c'est facile de faire des suivis versus la taxe qui est prélevée à la pompe, mais que tu ne gères pas nécessairement les cibles que tu veux atteindre.
C'est fait. Ça, tu ne gères pas les retombées sur l'environnement.
Voilà. Donc ça, c'est vraiment positif.
Fait que c'est
pour
là
le
positif.
Moi, je le vois en positif. Puis pour vrai, en jouer sur la TVQ et sur la bourse, sur le marché du carbone, je jouerais beaucoup plus sur la TVQ parce qu'on parle d'argent direct dans les poches des citoyens, alors que si on commence à toucher à la bourse, On n'est pas dans les taxes que le citoyen paye. Mm-hmm. Là. On est dans un système où est-ce que cet argent-là est souvent remis dans le fameux FEC, pas le Festival d'été de Québec, mais le Fonds d'électrification du Québec, qui est anciennement le Fonds vert. Donc ça, ça sent. Mais là, juste vous ramener, là, il y a une taxe sur le carburant à 30 % qu'on paye, qui date de 1923. Donc, ça, personne n'en parle, mais il y en a déjà des taxes. Puis celle-là, elle ne sera pas abolie au Québec. Puis le Canada, oui, ils ont aboli la taxe carbone. Il y a quand même des plafonds où est-ce qu'on ne veut pas que les grands pollueurs commencent à exagérer puis à polluer. Fait qu'à un moment donné, là, c'est sûr que ces entreprises-là payent et elle est refilée dans la poche des citoyens. Mais moi, si j'avais un exemple à vous donner, ce serait, écoute, prendre un petit peu ce que l'Ontario fait. Ils mettent un montant d'argent sur le litre, c'est 9 sous sur le litre. Et donc, si le prix du gaz augmente, bien, le montant qui est dans les poches de l'État reste le même.
C'est toujours 9 sous.
C'est toujours 9 sous, fait que ça permet justement d'avoir une meilleure prévisibilité pour l'État, parce que c'est tout le temps le même revenu que toi.
Et c'est pas un ajout.
Ça coûte
là.
Moins cher. C'est pas un ajout. L'Ontario le fait. Fait que moi, s'il y avait quelque chose à jouer, bien, tu sais, je le lance, là, je le donne gratuit à nos politiciens. Jouez donc sur le montant fixe au lieu d'un pourcentage, parce que là, avec le 30 % plus la TVS, puis la TPS puis la TVQ, ça finit par faire quasiment 50 % de ce qu'on paye à la pompe qui est donné au gouvernement.
Donc, je résume, pour Paul Saint-Pierre Plamondon, Charles Milliard et Bernard Drinville et Christine Fréchette qui nous écoutent présentement, on arrête de double taxer avec la TVQ, on met une taxe au litre et non pas au coût. Et comme ça, les citoyens vont en avoir plus dans ses poches.
Je te rajoute une couche. On le régionalise. En fonction des régions, on joue sur le montant pour que quand tu es dans les grands centres et tu as accès à un transport en commun, c'est plus cher versus dans les régions que tu le sais qu'il n'y a pas de service puis que tu as des gros déplacements à faire, qu'il y a des entreprises, justement. Il y a déjà des exceptions en Ontario, par exemple, dans la Défense, mais tu pourrais avoir l'exemple ici régionalisé.
Parfait.
Je leur donne.
La ligne du four, je te veux comme première ministre du Québec.
Écoute, on s'en reparlera.
Exactement. Merci pour cette excellente chronique. Merci de nous avoir démêlés dans cette bourse taxe carbone. Grâce à toi, je vais pouvoir l'expliquer ce soir au souper à mes enfants.
Ça me fait plaisir.
Merci beaucoup. On fait une courte pause à Boulevard 101, l'émission On en jase. On revient avec l'essentiel de l'actualité pour terminer l'émission. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 101.
Justin et Pascal CV. Jusqu'à 14h, on en jase.
Émission d'en jase qui tire à sa fin. Émission d'actualité de midi à 14h avec Jeff Fortin et Pascal CV du lundi au vendredi. Demain, on va avoir deux grosses entrevues. Ben d'abord, demain matin, je vous le dis tout de suite, à Marceau le matin, 8h20. Ligne ouverte avec Bernard Drinville.
Tripant ça, je t'entends.
Préparez votre téléphone 418-780-1021. Bernard Drinville veut répondre au vrai monde. Il veut répondre aux auditeurs de Boulevard 101. Ça va être trippant, ça va être comme un marceau le soir dans le temps, mais le matin avec Bernard Drinville. Bref, c'est écœurant. L'idée vient de Bernard Drinville. Merci, M. Drinville, de vous mettre à la solde de nos auditeurs de cette façon-là. Ben, on en jase demain. Alec Frédéric Mignot. Personne non binaire qui est présentement en procédure judiciaire avec la Station 10, un salon de coiffure à Montréal, va être avec nous aux alentours de 12h40. Donc, entrevue à ne pas manquer. Et par la suite, à 13h, c'est Christine Fréchette, candidate à la chefferie de la CAQ, contre Bernard Drinville, qui va être en entrevue avec nous à On en jase. Donc, des rendez-vous à ne pas manquer demain sur les ondes de Boulevard 102.1. Et évidemment, bien le retour de Gravel avec Denis Véro et Audrey suit à l'instant même. Hier, il y a quelqu'un qui a volé la vedette à Ottawa.
Chabot tire!
Pascal, décision très audacieuse de Martin Saint-Louis de rappeler le jeune Jacob Fowler du Rocket de Laval dans la Ligue américaine, de le mettre devant le filet à Ottawa pour un deuxième match en deux soirs pour le Canadien de Montréal. 34 arrêts pour Jacob Fowler, victoire du Canadien. 3-2 sur les Sénateurs, victoire importante. Le Canadien qui lentement, mais sûrement, s'en va vers une qualification aux séries. éliminatoires. Panne électrique, Pascal, qu'est-ce qu'on doit savoir si présentement j'ai pas d'électricité?
Bien, il y a François Legault, premier ministre du Québec, qui est en point de presse ce matin en partenariat avec Hydro-Québec. La grande majorité des pannes réglées d'ici 23 heures, c'est ce qu'on a affirmé. Secteur de Chaudière-Appalaches, on est toujours autour de 6000 foyers privés d'électricité pour la capitale nationale. On est autour de 800. Ça monte un peu, mais j'ai l'impression qu'on joue dans certaines choses. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. 23 heures, ça devrait être réglé. Pic-Turmel fait l'actualité. Dans la dernière heure, on a appris qu'il y avait 9 nouvelles accusations contre Dave Pic-Turmel, le leader du Blood Family Mafia. Nouvelles accusations déposées aujourd'hui pour des crimes commis au Québec en 2024. Je vous rappelle qu'il avait fui le Québec pour l'Italie. Il est toujours détenu là-bas, bien que les autorités aient donné le feu vert pour son extradition le 2 mars dernier. Également dans l'actualité, Bruno Marchand qui veut porter plainte. Le maire de Québec accuse un courtier immobilier de Via Capital, Simon Laberge, d'être allé trop loin en utilisant des termes comme malade mental dirigé vers lui dans une vidéo sur TikTok. Le Journal de Québec affirme que la vidéo d'opinion qui portait sur le tramway a été retirée des réseaux sociaux. Et le chauffeur qui a décimé une famille de Beauport en septembre 2021 a demandé une permission de sortie sans escorte. C'est Éric Légaré, 48 ans, qui demandait ce matin, dans une audience auprès de la Commission des libérations conditionnelles du Canada, une permission de sortie pour rapports familiaux et perfectionnement personnel. Verdict qui devrait être rendu dans 15 jours. Je vous rappelle qu'il a écopé de 16 ans de prison pour avoir tué 4 membres d'une même famille en état d'ébriété à 130 km/h dans une zone de 70.
Vous avez manqué notre entrevue avec Guillaume Tremblay, président de l'Union des municipalités du Québec, qui ne s'est pas prononcé contre le poids des poubelles et vous taxer de façon supplémentaire. Ça sera disponible sur le blvd.fm dans quelques instants. Le retour de Gravel s'amène à l'instant même. Pascal Sévé, je te souhaite une excellente fin de journée. On se voit demain.
À demain.
Salut! Grave.